Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Au menu aujourd'hui, trois grandes entrevues avec trois candidats des différentes circonscriptions de Sherbrooke. On vous présente ça à l'instant, ainsi qu'on va parler de la chefferie des conservateurs qui s'est décidée en fait la semaine dernière. C'est sur les Attachés de presse, sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bonjour à tous. Bonjour, messieurs.
Bonjour, messieurs. Ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien.
Oui, ça va très bien.
Grosse journée aujourd'hui. Grosse émission. Je vais te dire, je vais être transparent avec vous deux et à nos auditeurs auditrices. J'ai couru pas mal là, ce matin. Non, j'avais un cours il y a moins d'une heure. Donc, moi, d'habitude, parfaitement, moi, Marco, et que ce soit Félix ou Eden, lors de cette l'édition de cet été, on se préparait au moins 2 heures à l'avance en studio à se discuter, à jaser, à se relancer. Fait que là, c'est la première fois parce qu'on est aussi serré, mais je suis toujours aussi content de vous voir et toujours aussi content de parler de politique aujourd'hui. Vous autres?
Pareillement pour nous, écoute, sûr qu'on a eu un plus gros temps de préparation comparativement à d'habitude parce que, comme tu l'as dit, émission très chargée. Aujourd'hui, on reçoit trois candidats. On reçoit Mme Sylvie Tanguay du Parti québécois dans la circonscription de Saint-François. Après ça, on reçoit Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Richemont. Puis après ça, on conclut notre émission avec une entrevue avec André Bachand, qui est le député sortant de la CAQ dans la circonscription de Richemont. Donc, c'est la première fois qu'on fait un format où on va avoir trois entrevues avec trois candidats. On espère que ça va bien se passer. Mais honnêtement, c'est le début de trois émissions chargées, là, honnêtement, pour nous ce mois-ci. Là.
Mais oui, ouais, effectivement, donc... Attachons nos trucs, comme on dit. Mais non, blague à part, 16e journée de la campagne électorale. Il y a eu beaucoup d'actions dans les dernières semaines. On va pouvoir avoir la chance d'en discuter avec certains candidats, notamment sur certains dossiers. Est-ce qu'il y a un enjeu des derniers jours qui vous a qui vous a plus intéressé qu'un autre, qui vous a plus interpellé qu'un autre? Je vous lance la question tout bonnement, là, sans y avoir réfléchi.
Il y a eu plusieurs enjeux intéressants. Moi, j'ai été... intéressé par la réaction que le PQ a eue, que le PQ et les autres candidats ont eu à propos des vidéos osées qui ont sorti de la candidate du PQ dans la Val-des-Rapides.
Même chose. En fait, ce débat-là, il y a, pour vous mettre en contexte tout le monde, il y a un candidat libéral qui est contre l'adversaire Andréane Fiola, qu'on peut la nommer, la candidate du Parti québécois dans la Val-des-Rapides, qui a mentionné que on voyait la candidate du PQ dans des vidéos osées, je peux le mentionner comme ça en ondes.
Vidéos dans lesquelles on voyait pas son visage là, d'ailleurs. Là.
Où est-ce qu'elle était masquée, où est-ce que et selon les dires, là, et je cite entre guillemets, on peut l'apercevoir grâce au fait qu'on reconnaît son tatouage sur son bras. Donc, les gens font les liens et tout ça. Donc, la sortie automatique très rapide de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus, c'est j'offre ma confiance ultime à la candidate Mme Fiola, sans broncher les autres membres du Parti québécois aussi, en disant que ce genre de salissage ou d'action posée par le candidat, c'est vraiment un salissage public pour gâcher la campagne actuelle de Mme Fiola. Donc, tout le monde a pris sa position positivement pour la candidate du Parti québécois. Effectivement, j'ai vraiment aimé la position du Parti québécois, de Paul Saint-Pierre Plamondon et de tous les membres qui ont pris position en faveur de la candidate, puisqu'on est en 2022 après tout, ça n'a aucun sens. Bref, ça c'est ma petite ligne grise. Sinon, toi, Marco?
Ben, moi, c'est la mort de la reine. on a peut-être oublié que la reine Elizabeth II est décédée la semaine dernière. Donc, évidemment, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un peu la couverture médiatique là, par rapport à ça, là, qui était, à mon sens, là, surreprésentée. Là. T'sais, je peux comprendre que Radio-Canada, c'est un diffuseur public, puis que théoriquement, sur papier, là, la, la chef ou la chef d'État du Canada, c'est la reine, là, mais de passer des émissions pendant 3, 4, 5, 6 heures sur la reine est décédée. Ah, ben Charles III monte sur le trône. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup trop abusé, là. Surtout qu'on est en campagne électorale au Québec. Ça pourrait mettre de côté certains enjeux puis certaines annonces qui sont quand même assez importantes, là, pour la population. Sinon, de mon côté, j'ai bien aimé la réaction, ben, on va parler encore du Parti québécois, de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, justement, qui avait une sortie par rapport à ça, là, pour, dans le fond, qui expliquait qu'il fallait équilibrer le temps alloué aux deux, puis de pas qu'il n'y en ait pas un qui soit surreprésenté dans l'actualité. Ben, un. Que la mort de la reine soit pas surreprésentée d'actualité, parce que ça vient cacher tous les enjeux qui sont derrière la campagne électorale, là. Donc, pour moi, c'est ça qui vraiment qui a retenu mon attention. Puis sinon, ben, on va en discuter maintenant, là. Aussi, l'annonce qui a été faite ce matin, là, de Christine Labrie, la députée sortante de Sherbrooke, ici même, sur le campus de l'université. Je sais pas si Nicolas, tu peux nous en glisser.
Un enjeu qui est effectivement, que Mme Labrie qui a fait des promesses par rapport à la crise du logement et au logement étudiant, notamment, puisque on le rappelle, la communauté étudiante, c'est une des populations de Sherbrooke qui a le plus grand besoin de logement à l'heure actuelle, et qui la crise du logement touche directement. On se rappelle qu'à l'heure actuelle, on en avait parlé plutôt en ondes, même avec Mme Baudin, puis même en ondes, nous-mêmes, moi puis Marco, le dossier touche beaucoup de personnes et que le manque de logement est criant.
Bref, c'est des logements abordables, là. C'est vraiment ça la clé, là. C'est vraiment des logements que les étudiants peuvent se payer, là. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'étudiants, là, à Sherbrooke, là, qui ont les moyens de dépenser 500-600 $ par mois juste pour se loger. Parce qu'il y a des logements, des fois, qu'on peut voir affichés, là, qui sont rendus à 1 500 $ là, pour des 5,5. Là. C'est totalement inacceptable. Puis la sortie de Mme Labrie ce matin est en lien avec ça aussi. Puis dans le fond, bien évidemment, de construire plus de logements pour les résidences universitaires puis pour les cégeps. Parce qu'honnêtement, il y a un manque criant du côté dans le fond, des résidences par rapport aux logements puis aux chambres. Cette année, les résidences ici à l'Université de Sherbrooke se sont bondées. Puis il y a même des étudiants étrangers qui... dans le fond, qui venaient étudier ici, qui ont été acceptés, qui ont passé tous les processus de sélection pour venir étudier au Québec, mais ne trouvent pas de logement.
Ça devient un enjeu qui vient non seulement ça touche beaucoup de personnes, puis ça touche aussi plusieurs secteurs, dont le milieu de l'éducation à l'Université de Sherbrooke, au Cégep de Sherbrooke. Bref, ce genre d'échanges qui permettent à la ville de Sherbrooke de, mais honnêtement, c'est si on veut accueillir des personnes ici, ben faut les accueillir avec des logements qui sont disponibles. Et non, t'arrives ici puis finalement t'as rien du tout. c'est un peu troublant comme enjeu. Mais bref, Mme Labrie a fait une promesse électorale personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est pas au nom de Québec solidaire, mais au nom de Christine Labrie, la candidate. On va pouvoir en discuter plus concrètement tout à l'heure sur cet enjeu. Moi, j'ai allé ça touche un petit peu la campagne électorale provinciale, mais c'est plutôt, moi, un discours de Mme Évelyne Baudin lors du dernier conseil municipal qui m'a beaucoup interpellé. C'est lorsqu'elle a lu une lettre ouverte de monsieur, son prénom m'échappe, monsieur Forêt, qui avait fait une lettre ouverte sur le financement des municipalités à l'heure actuelle. Mme Baudin a lu la lettre qui mentionnait que comment on peut continuer à s'enrichir au Québec en proposant des baisses d'impôts ou des taxes sur la TVQ, etc. Ce qu'il faut le comprendre aussi, c'est que les propos de Mme Baudin pointaient du doigt 4 des 5 partis qui avaient proposé des mesures très claires de baisse d'impôts lors des l'un des 4 partis est élu à l'Assemblée nationale le 3 octobre. Donc oui, Mme Baudin avait martelé aussi que si on veut continuer à s'enrichir, que les infrastructures publiques au sein de nos municipalités, ben, aient du sens et arrêtent de dépérir jour après jour, ben, il faut continuer à financer les municipalités parce que c'est de là que ça part. Souvent, tout ce qui est les enjeux de proximité, etc., ben, c'est avec du financement du gouvernement provincial vers les municipalités qu'on peut mener des projets à terme et que, notamment sur les infrastructures public. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant dans le contexte.
Puis aussi, elle a réitéré aussi la demande de plusieurs municipalités de rapatrier 1% de la TVQ vers les municipalités, justement pour aider le financement des infrastructures publiques. Là, quand on parle d'infrastructures publiques, là, on parle des routes, on parle des logements, de logements abordables. Vraiment, là, toutes des choses qui touchent directement les citoyens, là.
Non, absolument. Bref, ça avait fait... c'est venu me chercher, parce que ça touche pas concrètement à la campagne électorale, mais ça la touche tout à fait, puisque, bon, ça... On le sait, hein, le financement des municipalités, c'est toujours des sujets où est-ce que c'est pas les sujets où est-ce que qui viennent faire la une en premier, ça va être surtout des sujets plus je veux pas dire concrets mais qui pognent plus, je peux me permettre l'expression, du genre la crise du logement, l'environnement, la baisse d'impôts, justement les mesures fiscales, c'est souvent des enjeux qui viennent plus avant sur la scène médiatique ou sur tout simplement sur les enjeux points de la campagne qui vient à l'écho des citoyens, mais le financement des municipalités, c'est quand même un enjeu hyper important, non seulement dans le contexte actuel de 2022, où est-ce que comment on va lutter pour la crise du logement et la crise environnementale, pardonnez-moi, ça vient avec des services de proximité solides, financés, mais aussi où est-ce que le contact avec les citoyens est très direct et où est-ce qu'on peut avancer certains dossiers grâce aux enjeux municipaux. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça, l'approche de Mme Beaudin.
Espérons que son appel soit entendu par les candidats de la circonscription de Sherbrooke, puis évidemment de la prochaine députée ou prochain député de la circonscription.
Ben, on pourrait dire les trois circonscriptions de Sherbrooke, puisqu'on se rappelle, Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, oui, sa circonscription touche une bonne partie de la ville, mais on se rappelle, la circonscription de Saint-François touche un petit peu plus la partie de Fleurimont et les alentours, de même et à l'inverse aussi, la circonscription de Richemont vient toucher tout ce qui est l'arrondissement de Roquefort-Saint-Élie-Deauville, qui ont beaucoup d'enjeux, notamment sur tout ce qui est les services de transport en commun ou l'étalement urbain, notamment. C'est des enjeux qui viennent toucher pas mal tout le monde. Donc, voilà pour le tour d'horizon. Chers auditeurs, auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire et musicale. Et au retour, on accueille Mme Sylvie Tanguay, candidate du Parti québécois dans Saint-François. On vous écoute les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. À l'instant même, on s'entretient avec la candidate du Parti québécois dans Saint-François, Mme Sylvie Tanguay. Mme Tanguay, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Ça fait plaisir, merci de passer en studio, là, ça nous fait vraiment plaisir.
Mme Tanguay, première question quand même assez simple. Pourquoi en 2022 se présenter aux élections, puis pourquoi le Parti québécois aussi? On connaît là, les tendances actuelles, on sait que le Parti québécois risque de faire élire un, maximum peut-être deux députés. Pourquoi se lancer en politique en 2022 avec le PQ?
Oui, ben, en fait, la politique, je suis une personne qui est quand même assez politisée dans mon quotidien depuis que je suis tout petite. Là. Au secondaire, je faisais mes exposés oraux sur René Lévesque. Je suis née d'une famille souverainiste. Je suis née bleue, je vais mourir bleue. Alors, le Parti québécois, pour moi, c'était sans équivoque également le seul parti qui prône un pays, de faire du Québec un pays. Donc, pour moi, c'est super important. Pourquoi politique en 2022? En fait, dans mon entourage, moi, je suis assistante infirmière-chef en pédiatrie de soir. Alors, je travaille avec une équipe qui est très jeune. Il y a une apathie politique chez les jeunes, mais aussi dans la population en général, ce qui est malheureux parce que c'est important. C'est une démocratie. On a le droit de vote. Alors, puis il y a beaucoup d'enjeux également. Depuis les quatre dernières années, là, ça va pas vraiment bien au Québec, surtout en santé, mais en éducation, CPE, environnement surtout. Donc, je sais pas, j'ai senti que c'était là qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus concret sur le terrain, outre que de laisser passer les choses puis de critiquer, en fait, les gouvernements en place. Un peu ça, la prise de décision.
Moi, j'avais quelques questions à propos du système de santé, plus précisément le plan santé du PQ. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire quelles sont les grandes lignes de ce plan santé-là?
Oui. En fait, pour y avoir collaboré au niveau d'une des priorités, et venant du milieu de la santé, ça fait 20 ans que je suis infirmière, 10 ans assistante infirmière-chef, le réseau va pas super bien, on s'entend. Donc, nous, au Parti québécois, on a trois grandes priorités. La première, c'est les CLSC, c'est-à-dire de sortir les CLSC de cette méga structure qu'elle est en ce moment dans les CIS et les CIUS pour lui redonner son autonomie de gestion, mais de prise de décision aussi. À l'époque, les CLSC, quand moi j'étais plus jeune, du moins, là, on pouvait aller au CLSC, c'était la première porte d'entrée du système de santé, et c'est ce qu'on veut redonner au Parti québécois en redonnant l'autonomie des CLSC, que ce soit financièrement ou dans la gestion. La deuxième priorité, c'est les soins à domicile. En fait, c'est une santé près de chez vous, même chez vous, si la situation le permet, si votre situation de santé peut le permettre. Donc, c'est revenir aux soins à domicile qui est des coûts beaucoup moindres que d'institutionnaliser toutes ces personnes aînées-là dans les CHSLD. Et le troisième point, bien, c'est de faire attention aux travailleurs de la santé. Je veux dire, on prend soin des gens, mais pour le moment, la gestion qui est probablement trop difficile parce que c'est trop gros comme structure, fait pas attention au personnel de la santé. Il y a des démissions, il y a des gens qui partent en maladie. Moi, je l'ai vécu, j'ai des jeunes qui travaillent avec moi, ils ont 5 ans d'ancienneté. Là. C'est notre relève. Moi, il m'en reste moins que ça à travailler. Là. Mais eux, c'est notre relève et ils quittent. Ils quittent pour des agences privées. Donc, le Parti québécois se fait a l'engagement dans un premier temps, dans la première année, d'abolir les agences privées. Parce qu'on y arrivera pas. Si on veut un réseau de santé publique en forme et adéquat, nous, on veut faire du réseau de la santé le meilleur employeur au Québec en santé.
OK. À propos d'être le meilleur employeur, il y a des choses prévues dans ce plan santé-là à propos de la rémunération des médecins. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, bien, en fait, on sait que les médecins sont pas tous comme des travailleurs autonomes, mais il y en a. Donc, on peut déduire un salaire à son enfant de 10 ans. On devient comme vraiment un travailleur autonome. On est incorporé. Et ça, le Parti libéral avait instauré ça à une époque. Le Parti québécois, je pense, bref, tout est mélangé dans cette espèce de rémunération des médecins qui sont à l'acte également. Donc ça, nous, on veut essayer d'enlever ça le plus possible. Et j'ai travaillé avec un médecin qui a collaboré au plan aussi, Dr. Rodrigue de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et il est d'accord. Puis mes collègues médecins sont aussi d'accord de pas être incorporés. Fait que c'est d'essayer de payer moins à l'acte et plus de devenir des employeurs de l'État.
OK. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme dans le système de paiement si ça ne serait pas à l'acte environ? Le salariat ou...
Bien, plus le salariat, mais aussi, écoutez, ça sera à déterminer plus en détail. Là, si on est élu, bien, on va s'asseoir avec les médecins. Premièrement, il faut s'asseoir avec la Corporation des médecins, avec les associations et tout, et le Parti québécois également, la personne qui sera responsable de ce sujet-là. Mais ça fait partie de notre plan santé, le salaire des médecins, évidemment.
OK. Merci beaucoup. Pour ce qui est des services de proximité, on parle, comme vous avez dit, de ramener les CLSC à la vigueur d'antan. Pour les personnes en région plus éloignée, qu'est-ce qui est prévu aussi?
Mais c'est la même chose. En fait, si on réussit à faire ça, le CLSC, tu sais, en fait, un CLSC, vous avez un code postal, vous avez un CLSC. Et les besoins ne sont pas le même pour le CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve qu'en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est de redonner la porte d'entrée. Nous, on veut un CLSC ouvert 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Puis, c'est pas nécessairement des médecins qui seront là. On est 200 000 professionnels de la santé qui peuvent faire des actes délégués, mais parce que on n'a pas le pouvoir de le faire en ce moment, ça brime les soins de santé, justement, puis la rapidité. Tu sais, une physiothérapeute, là, vous vous foulez une cheville. La physiothérapeute peut prescrire un rayon X. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. En ce moment, c'est ce qu'on doit faire. On va attendre, et là, le triage, on est 5/5, là, je veux dire, une cheville foulée. Mais la physiothérapeute peut prendre en charge, l'audiologiste peut diagnostiquer un otite. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire les autres professionnels de la santé. Donc, en région, c'est la même chose, parce que moi, justement, à Quaticook, l'urgence est fermée dans ma circonscription, c'est inacceptable, mais si au moins les gens auraient un endroit où aller comme première ligne. Les organismes communautaires font partie de la première ligne aussi, à ne pas oublier. Je veux dire, le financement, nous, on veut financer à 460 millions à la mission. Les organismes communautaires, on s'engage à le faire parce que ce sont la première ligne. Moi, je viens du communautaire aussi, j'ai une technique en travail social et je veux dire, quand les organismes sont financés, on ne sait jamais combien on va avoir à chaque année. C'est un peu anxiogène pour le personnel, mais aussi pour ce qu'on peut offrir comme service à la population.
Dans le fond, si je comprends bien, dans le fond, vous voulez comme décentraliser un peu le pouvoir du ministère de la Santé pour qu'il puisse, dans le fond, venir rejoindre directement les communautés. Puis aussi, dans le fond, décentraliser, si je peux m'exprimer ainsi, le pouvoir des médecins aussi pour donner, dans le fond, plus de pouvoir, davantage de spécialistes, là, pour qu'ils puissent, dans le fond, répondre à la première ligne au lieu qu'on se rende à l'urgence, par exemple, une foulure à la cheville. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement. Bien
Parfait.
Résumé.
Puis, on parle beaucoup du privé en santé dans la campagne électorale. Du côté du Parti québécois, est-ce que le privé a un rôle à jouer pour venir pallier les soins que le système public ne peut pas prendre en charge?
Non. Non. Nous, au contraire. Dans la première année, on abolit les agences privées parce que pour le vivre aussi au quotidien, là, quand je travaillais sur le terrain en soins, le privé vient chercher les filles parce que ou les infirmiers et infirmières parce qu'ils offrent des conditions de travail. Qu'est-ce que nous, au public, en ce moment, parce que ça va pas bien, on n'est pas capable d'offrir ces conditions-là. Donc, les filles quittent, démissionnent, puis c'est des gens de moins dans le réseau public. Fait que nous, l'abolition des agences, c'est une priorité. On peut pas combiner. La CAQ a utilisé beaucoup, en ce moment, dans les dernières années, les agences privées pour répondre aux besoins de la population, là. Mais ça marche pas, là. Nous, c'est sûr que non, ça va pas ensemble. Et en mentionnant les agences privées, les cliniques privées. Souvent, les chirurgies dans les cliniques privées, les patients vont compliquer au niveau des plaies et on les revoit où? À l'urgence. Parce que la clinique privée ne sera pas le suivi par la suite. Peut-être un ou deux fois, mais les complications se retrouvent à l'urgence. Donc, on engorge encore une fois les urgences.
Tantôt, on parlait des médecins, mais je veux parler un peu plus des médecins de famille. On sait qu'il y a une tangente dans les dernières années, qu'il y a plusieurs médecins qui vont avoir tendance à se spécialiser et de quitter, soit de ne pas étudier en médecine de famille, ou de littéralement quitter la profession de médecin de famille. Est-ce que dans la plateforme santé du Parti québécois, est-ce qu'il y a des incitatifs pour ramener davantage de médecins de famille? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Québécois là, qui n'en ont pas de médecin de famille à l'heure actuelle.
Oui, puis de promettre un médecin de famille pour tout le monde en ce moment, c'est complètement utopique, là, je tiens à le préciser, il n'y en a pas. Et pour le vivre également dans le quotidien, moi je suis en pédiatrie, les jeunes qui sont en médecine se surspécialisent, puis c'est correct parce qu'on a besoin de spécialité également. Puis aussi, c'est que les médecins de famille, il faut savoir qu'ils ont des actes à faire. Ils doivent faire un certain temps dans leur bureau, oui, en clinique, mais également à l'hôpital. Fait que c'est une double... Tu sais, je veux dire, ils ont du temps à donner là, en médecine générale. Ils doivent le faire. Fait que ça, nous, d'enlever cette partie-là puis de limiter juste leur travail à leur cabinet, à leur bureau, peu importe, au GMF, bien, à ce moment-là, ça serait déjà un peu mieux. Mais on n'a pas besoin de tous les médecins de famille, de juste des médecins de famille, comme je vous disais, au CLSC. Il y a beaucoup d'autres professionnels qui pourraient dégager, justement, puis prendre en charge les patients.
Vous venez de mentionner, on parlait des médecins de famille notamment. Est-ce qu'il y a aussi, il pourrait avoir un enjeu, une question de promotion de la, je pourrais dire, de la profession de médecin de famille? Parce qu'on dirait qu'on a l'impression que les nouveaux médecins, comme tu l'as mentionné, ils se spécialisent beaucoup, ils vont moins dans cette spécialité de médecin de famille. Puis on sait qu'à l'heure actuelle, on en manque, mais ces nouveaux médecins de famille-là veulent aussi des conditions où est-ce qu'on ne veut pas trop 2000 patients parce qu'on veut quand même prendre soin de nos patients, on veut en avoir moins pour mieux en prendre soin, puis avoir des meilleures conditions de travail aussi. Donc, y a-t-il une question de promotion de la profession ou quoi que ce soit?
Bien, en fait, comme je vous disais, les gens se sur-spécialisent, puis c'est correct. C'est juste, promotion, en fait, c'est une question de choix aussi. Tu sais, comme médecin de famille, je veux dire, ça dépend ce que tu as envie de faire comme médecin à la base. C'est de rencontrer des patients dans une clinique. Tu sais, c'est peut-être moins, comment je pourrais dire, valorisé que le neurochirurgien ou le chirurgien ou peu importe, tu sais. Mais sont super importants. Mais de là à dire que le nombre n'est pas nécessairement obligé d'être si élevé. Parce que si on leur dégage en donnant des actes délégués aux super infirmières, aux infirmières cliniciennes, à ce moment-là, en fait, ça serait de valoriser le programme d'infirmières cliniciennes ou de super infirmières, d'IPS, en fait, puis d'en avoir plus. Avec peut-être des stages payants. T'sais, il y a des métiers techniques à l'université où est-ce que vous êtes en stage, mais vous êtes payé. En soins infirmiers, ça n'existe pas. Fait que ça serait peut-être un incitatif pour plus d'IPS. Mais là, si je reviens au médecin de famille, ça sera à voir. Mais nous, on n'a pas d'incitatif en soi, mis à part que de leur donner que le rôle d'avoir un certain caseload de patients, là, en fait, et non avoir du travail à faire à l'hôpital.
Est-ce que, justement, les incitatifs que vous parlez, ça pourrait venir, en quelque sorte, ben ramener de un, des gens dans le réseau public, de un, puis de deux, ben répondre aussi à la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a aussi, là, qui existe là, dans le secteur public, là, parce que avec ce que vous proposez, avec on veut redonner les, dans le fond, les CLSC plus en première ligne, ça va prendre des gens là, pour travailler dans les CLSC aussi. Là.
Oui. Bien, en fait, ça devient à dire à la première chose qu'on va faire, c'est d'abolir les agences privées. En abolissant les agences privées, les infirmières qui travaillent dans les agences vont devoir revenir s'ils veulent continuer d'être infirmières. Et nous, on va pouvoir leur donner des conditions de travail, c'est-à-dire conciliation travail-famille, des semaines de 4 jours, mais avec les avantages d'un temps plein. Ça, c'est dans notre programme aussi. Le choix des horaires aussi, de redonner une autonomie aux horaires. Donc, on va ramener les gens dans le réseau. Puis de remettre les soins de première ligne, on parle d'infirmières, mais c'est encore là, c'est des travailleurs sociaux, c'est des psychologues. C'est physiothérapeute, ergothérapeute. Il y a tellement, dans le milieu de la santé, on est 200 000, tellement de professions qui ne sont pas utilisées à leur juste valeur puis à ce qu'ils sont capables de faire comme acte délégué. C'est ça qu'on veut faire, qu'on veut leur redonner.
Puis la place de, la fin du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO, là, mm-hmm. Est-ce que ça fait partie aussi de la plateforme du Parti québécois en santé?
Absolument. Ça, c'est clair. Ça faisait partie de mon volet à moi parce que je le vois. Je veux dire, c'est le TSO est carrément responsable de plusieurs maux en santé. Là, je veux dire, les dépressions, les bris de service, les gens quittent, les missions en bloc, c'est fréquent. Donc, oui, ça en fait partie. Puis le TSO va s'éliminer justement en donnant des meilleures conditions de travail au personnel de la santé pour pouvoir avoir plus de gens dans le réseau public.
Pour retourner plus du côté des patients, quel est le rôle de la prévention dans le plan santé du PQ?
Oui. En fait, en ce moment, il n'y a pas assez de prévention. Prévention, promotion de la santé, c'est une grosse lacune en ce moment au Québec. Moi, je me souviens du temps où est-ce qu'il y en avait beaucoup dans les écoles primaires et secondaires. Il n'y en a plus. Que ce soit côté sexualité, hein, je veux dire, avant, on avait des professionnels qui venaient. Là, les gens, quoi, c'est sur Internet qu'ils vont apprendre. Il y a beaucoup de prévention qui se font au niveau du sport également, l'alimentation. Et tout ça a un lien direct avec la santé. Fait que dans le plan du Parti québécois, il y a beaucoup de promotion de la santé, la prévention également qu'on va mise. En fait, en revenant dans les CLSC, les gens auront le temps de faire de la prévention, pas juste soigner puis guérir puis mettre des plasters. Là. C'est à un moment donné, les plasters avec de l'eau et des colles puis avec le temps aussi. Fait que c'est super important, ça fait partie de la plateforme. Puis la promotion de la santé va avec une saine alimentation puis une activité physique. Ça éviterait des maladies chroniques avec le temps. Puis pour travailler en pédiatrie, il y a de plus en plus de jeunes qui sont un surplus de poids, une activité physique, dépression, tout ça, là, ça va avec la prévention, effectivement.
OK. Justement, on a parlé beaucoup de santé physique. C'est quoi la place de la santé mentale aussi dans ce plan-là?
Bien, nous, au Parti québécois, on veut donner accès aux soins de psychothérapie plus facilement, c'est-à-dire les sortir... Il va toujours avoir du privé, là, ça c'est clair. De dire qu'il n'y aura plus de psychologue au privé ou quoi que ce soit, c'est utopique. Par contre, nous, on veut ramener le plus possible de psychothérapeutes, de psychologues au public, avec des conditions, des conditions de travail adéquates également. Mais il y a les travailleurs sociaux qui sont là aussi, les travailleurs sociaux, les techniciens en éducation spécialisée. Il y a encore une fois beaucoup de professionnels qui peuvent agir sur la santé mentale, pas juste les psychologues. Donc, ça aussi, c'est de faire connaître tous ces spécialistes-là. Puis nous, le plan, c'est de le rendre accessible à tous parce que moi, je l'y vais en pédiatrie, honnêtement, en pandémie. On a toujours des adolescents qui sont en dépression et des suicidaires. Tentative de suicide, c'est malheureux, mais ça a toujours été. Mais en pandémie, c'était des 8, 9, 10 ans, là. Ça, c'était jamais vu pour moi en 20 ans, puis pour personne. Puis nos pédiatres ont fait des sorties publiques dès le début de la pandémie, laisser les jeunes aller à l'école, laisser-les faire leur sport, laisser-les se voir entre eux, parce qu'on y arrivera pas. Puis justement, c'est arrivé aussi, là, une hausse importante d'idées suicidaires chez les jeunes de 7, 8, 9, 10 ans, ce qui est malheureux. Fait que nous, au Parti québécois, c'est clair que la santé mentale, déjà avec la pandémie, c'est vraiment important d'agir à ce niveau.
Vous avez mentionné dans votre début de réponse que vous n'allez pas mettre fin au système privé en santé mentale. Est-ce que ça n'est pas un peu une contradiction parce que vous allez mettre fin au corporatisme puis au système privé en santé pour les hôpitaux, mais de ne pas le mettre fin aussi pour les psychologues aussi? C'est pas en contradiction un peu?
Non, parce que ça serait utopique de dire à tous les psychologues du Québec vous ne pouvez plus pratiquer en privé. Fait que vous allez vous en venir au public. Tandis que les infirmières, c'est nouveau, hein, l'agence privée, l'utilisation des infirmières dans les agences. Ça fait pas 10-15 ans que ça existe, là. C'est vraiment nouveau et ça s'est développé. Ça existait à l'époque pour des régions éloignées. Si les gens voulaient aller travailler dans le Grand Nord, on faisait affaire à des agences, bon, on avait des contrats. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, dans le milieu de la santé, les gouvernements se sont mis à utiliser ces agences-là pour travailler dans le réseau public, dans les hôpitaux de réseau public. Tandis que les psychiatres ou les psychologues, ben plutôt les psychologues, il y en a dans le privé depuis tout le temps, là. Je veux dire, il y a toujours eu du privé aux psychologues. Fait que ça serait utopique comme plan de dire on abolit les psychologues au privé, on y arriverait pas, là. Fait à un moment donné, faut dire la vérité aux Québécois aussi. Faut vraiment être honnête. Puis moi, je fais de la politique de façon honnête, c'est-à-dire avec ce qu'on peut faire, puis de faire ce qu'on peut avec où le système est rendu. Fait que non, c'est pas en contradiction avec les infirmières ou les infirmiers, par exemple.
Puis la place des médecins dans le réseau privé, est-ce que c'est la même chose pour les psychologues?
Ben en fait, les médecins, un GMF, c'est privé, hein. C'est un groupe de famille privée, en fait, les GMF. Fait que si on a des médecins de famille dans les GMF, sont privés, c'est correct, mais en fait, c'est pas la même chose que les psychologues, parce que les médecins, ils ont des cabinets privés, puis ça aussi, ça existe depuis longtemps, les cliniques privées, comme je vous dis. Ça peut continuer. Là où il faut faire la différence, c'est le public, on parle d'infirmières, de gens qui sont sur le terrain, les infirmières auxiliaires, les préposés, les inhalothérapeutes. C'est tout ça qui a été, dans les 10 dernières années, retiré du public pour avantager vers le privé. Les autres corps de métier ont déjà toujours existé au privé.
Cet été, il y a eu un triste événement, un décès à Foresta Lumina, à Coaticook, à cause de possiblement une mauvaise couverture ambulancière. Comment contrer ce genre de problème dans le futur?
Écoutez ça, j'adore votre question. Parce que ça fait partie d'un de mes engagements clés pour la circonscription de Saint-François, de réouvrir l'urgence 24/7 à Coaticook. C'est inacceptable qu'une urgence aussi éloignée, dans une région aussi éloignée que Coaticook, on s'entend que c'est 35 minutes de Sherbrooke, puis ça, c'est Coaticook centre-ville. Si on tombe dans les municipalités autour, et je me promène beaucoup là, en ce moment, là, dans Saint-Herminé-Gilles, Stanstead et tout, ils sont encore à 30 minutes de Coaticook. Fait qu'on a une heure de Sherbrooke. Quand l'urgence a fermé, a fermé à 18 heures, OK? Il avait promis une flotte d'ambulances assez suffisante pour assurer la sécurité des municipalités autour, ce qui n'a pas été le cas dans Foresta Lumina. Il y avait deux flottes d'ambulances, ce qui juge eux autres sécuritaires, une occupée, l'autre pas en fonction parce qu'il manque de personnel. Donc, on se retrouve avec une flotte pour toute la MRC de Coaticook, qui est immense, pour ceux qui ne savent pas, c'est grand. Donc, c'est une ambulance de Sherbrooke qui a dû se rendre. 35 minutes à Foresta Lumina, c'est un terrain accidenté, aller chercher le monsieur. Bref, là, on a perdu une heure et quart avec un homme en arrêt cardio-respiratoire. Fait que peu importe la condition physique, certains vont dire, ouais, mais il était âgé. Ouais, puis, je veux dire, c'est une vie quand même, puis il était peut-être en très bonne santé, ce monsieur-là, là. On le sait pas, ça, l'histoire le dit pas. Fait que, tu sais, peu importe, là, 1h10 en arrêt cardio-respiratoire, là, peu importe l'âge, là, on a très, très peu de risques de survie. Donc, si l'urgence avait été ouverte ou s'il avait rempli la promesse d'avoir assez d'ambulances, probablement que l'histoire ne dira pas s'il sera encore là, ce monsieur-là, là, mais c'est déplorable puis c'est inacceptable pour moi. Fait que moi, je me fais l'engagement clair, puis ça, le Parti le sait, puis pour le Parti québécois, c'est aussi ça. Il faut que cette urgence-là ouvre 24/7. De quelle façon elle le sera, ça, on va discuter avec la direction rendue là, mais il faut qu'elle soit faite, c'est sûr.
Madame Tanguay, merci infiniment pour votre temps. C'est très bien, très agréable. On en a appris davantage sur votre plateforme, mais aussi pour vos idées. On vous souhaite une excellente campagne, puis encore une fois, merci d'être venu en studio pour l'entrevue.
Ben, merci à vous trois.
Et pour nous, chers auditeurs et auditrices, on s'en va en courte pause musicale, des publicitaires et au retour. On discute encore une fois de politique. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Un autre candidat qui se joint à nous en studio, Monsieur Philippe Pagé, candidat pour Québec solidaire dans Richemont. Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Merci de venir en studio pour cette entrevue, c'est hyper apprécié.
Ben, c'est toujours un plaisir là, de retourner à l'université là, après avoir été passé ici. Là. Ça me rappelle des souvenirs, c'est le fun.
Ah oui, un peu nostalgique?
Non, pas tant, non.
Donc, Monsieur Philippe Pagé, vous êtes candidat pour Québec solidaire dans la circonscription de Richemont, comme mon collègue l'a mentionné. Vous êtes aussi maire de Saint-Camille, petite municipalité de votre circonscription, et aussi directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec. Premièrement, Pourquoi vous présenter en 2022 en plein milieu d'un mandat à la mairie de Saint-Camille pour devenir député de Québec solidaire?
Ben moi, je pense que les choses doivent changer. Là. Le statu quo, pour moi, il est intenable. Là. Actuellement, on parle souvent que c'est les élections de la dernière chance pour l'environnement. Si on prend pas des décisions tout de suite pour le bien de nos enfants puis de l'environnement, je pense qu'il va être trop tard. Moi, c'était une des raisons là, qui m'ont amené à écourter peut-être là, mon mandat à la mairie si jamais j'étais élu, là, pour pouvoir m'impliquer en politique. Là. Ouais.
Donc, aussi, vous avez quand même un historique politique. Vous êtes quelqu'un qui est quand même impliqué dans sa communauté, puis aussi en politique depuis plusieurs années. Vous êtes un ancien militant péquiste et qui a notamment aussi travaillé comme attaché politique de l'ancien ministre de la Santé, ici même à Sherbrooke, le monsieur Régent Hébert. Puis aussi, vous avez présidé aussi l'instance du PQ en Estrie là, pendant quelques années. Pourquoi avoir changé de parti? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la plateforme du Parti québécois qui vous rejoignait moins que celle de Québec solidaire?
Ben moi, c'est évident que c'est Québec solidaire qui m'a attiré. Après, je vous dirais, une longue période de réflexion. Là. Le Parti québécois, on a connu des périodes turbulentes. Là, je vous dirais, dans les 10 dernières années, là, l'élection du gouvernement de Mme Marois, l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, la course à la chefferie qui a amené Jean-François Lisée à devenir chef du parti. Moi, c'est un peu là que j'ai commencé à décrocher. Là. Puis je trouvais que le travail de Christine Labry dans les 4 dernières années a été exceptionnel à Sherbrooke. Là. J'ai vu le parti prendre un peu d'expérience aussi. Là. Auparavant, je me demandais, bon, faut-tu être vegan là, pour être à Québec solidaire? Là, t'sais? Est-ce que c'est juste un parti qui représente le plateau Mont-Royal puis quartier Saint-Roch à Québec, mettons? T'sais? Mais avec l'élection de Christine en région, avec l'élection d'Émilie de Sartérien à Rouyn-Noranda et Témiscamingue, moi, le parti, pour moi, il a fait la preuve là, qu'il pouvait défendre des idées de gauche autant en région qu'en ville. Je trouvais que c'était le parti qui avait le plus d'idées pour la prochaine génération. Tu sais, pas juste les 4 prochaines années, puis offrir aux Québécois un bon gouvernement. Je trouvais qu'il y avait un projet de pays aussi. Tu sais, moi, je suis souverainiste, puis c'est important pour moi. Puis après, ben, le seul autre parti souverainiste, c'est Québec solidaire. Puis nous, on veut faire le pays le plus vert d'Amérique du Nord. Fait que...
Parlant de, justement, de souveraineté, le Québec solidaire reçoit à l'heure actuelle certaines critiques comme étant un parti non souverainiste. Vous faites juste le mentionner pour aller chercher une base souverainiste, notamment. Vous répondez quoi à ces critiques-là, puisque pourtant la souveraineté est dans votre plateforme concrètement? Vous répondez quoi à ce genre de critiques?
Ben moi, je pense que c'est non fondé. Là. C'est certain que le Québec solidaire, on est un parti de plusieurs idées. Peut-être qu'il y en a d'autres, le Parti québécois, pour pas le nommer, avait une seule idée maîtresse pour fédérer l'ensemble du parti, c'était la souveraineté. T'sais. Tandis qu'à Québec solidaire, ce qui nous fédère, ce qui nous regroupe, c'est vraiment nos idées de gauche, nos idées progressistes. Puis la souveraineté en fait partie. Mais ensuite, pour nous, c'est un but ultime, là, la souveraineté, être capable de faire du Québec un pays. Mais tu sais, il y a aussi la façon d'y accéder qui est différente. Je pense qu'il y a aussi le type de pays qu'on veut qui est différent. Puis moi, je pense que ces critiques-là sont non fondées. Les 10 députés de Québec solidaire ont écrit un livre qui s'appelle
Ce qui nous lie.
Tu sais. Puis c'est, je crois que ça met sur la table vraiment nos idées fortes. Puis nos convictions profondes envers l'indépendance. Puis pour moi, je pense qu'on est tout aussi souverainistes que les autres. Là.
Vous parlez de la souveraineté, puis pour le Parti québécois, on peut dire que c'est leur projet de société. Mais c'est quoi le projet de société de Québec solidaire?
Ben pour nous, je pense que c'est un Québec qui est plus vert, un Québec qui réussit à traverser la lutte pour les changements climatiques. Puis c'est un pays aussi qui est... Au Québec, il faut se l'admettre à un moment donné, là, il y a plusieurs nations. Là. T'sais, on parle de la nation québécoise, oui, certainement, mais il y a les Premières Nations aussi, les communautés autochtones, il y a les communautés anglophones, puis au dernier référendum, les Premières Nations puis les Anglais n'ont pas voté là, pour la souveraineté là, à large majorité. Puis je pense que si on veut faire un pays qui regroupe tout le monde, le Québec, ça va prendre l'appui des Premières Nations, ça va nous prendre une présence dans les communautés anglophones, puis pas simplement les Québécois blancs d'un certain âge. Là. Il va falloir montrer que le Québec, ça peut représenter tout ça. Puis je pense que c'est ça qui va nous donner la force là, d'entrer dans le 21e siècle en étant un État souverain puis indépendant. Là.
Vous parlez des Premières Nations. De quelle manière qu'on peut ramener le dialogue avec, en fait, les personnes qui sont précédées sur notre territoire en ce moment?
Ben, c'est complexe. Il faut d'abord créer des liens de nation à nation. Là, je pense qu'il faut les reconnaître. Il faut enlever le pouvoir que le fédéral a sur les Premières Nations pour pouvoir l'avoir ici au Québec, pour pouvoir ensuite travailler ensemble, tu sais, puis travailler de peuple à peuple. Je pense que ça se fait progressivement, ça se fait d'une façon où il faut instaurer un climat de confiance entre nos deux. Puis actuellement, ben je pense pas que c'est le gouvernement caquiste qui a fait ça pendant 4 ans. Là. Fait que là, on a une grosse côte à remonter avec les communautés autochtones. Nous, on en a 4 qui se présentent pour Québec solidaire, puis je pense qu'ils vont être de très bons ambassadeurs ou ambassadrices pour notre cause dans les prochaines années. Là.
Je l'ai mentionné dans mon introduction, vous êtes le directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec. Parlons agriculture. Je crois que, honnêtement, vous êtes le mieux placé pour répondre à nos questions sur la plateforme de Québec solidaire en agriculture. Québec solidaire veut augmenter la cible d'autosuffisance alimentaire à 70 %.
Ouais.
C'est une cible qui était déjà prévue dans les années 70 là, par le ministre de l'Agriculture, là, M. Jean Garon. Comment on peut faire pour littéralement le doubler l'autosuffisance alimentaire québécoise?
Ben nous, 70 % qu'on veut atteindre comme cible, c'est vraiment à ce moment notre engagement, c'est pour les institutions, à savoir les hôpitaux, les écoles, les centres de la petite enfance, par exemple. C'est ces cafétérias-là, c'est ces services alimentaires-là qu'on veut qu'ils augmentent leur cible à 70 %. C'est possible d'augmenter ça à 70 % si on fait des choix alimentaires qui sont raisonnables. C'est certain que 70 % tu peux pas manger des fraises en hiver, là, mettons, si elles n'ont pas été congelées ou surgelées. Puis ça, on croit que ça va créer aussi des marchés en région, parce que qu'on prenne n'importe quelle petite ville où il y a une école secondaire, où il y a un hôpital, c'est des citoyens corporatifs qui nourrissent leur monde 3 fois par jour. Là, c'est beaucoup de monde. Puis ça va créer, puis ça va dynamiser des marchés régionaux pour nos produits ici. Puis on pense que c'est une bonne façon pour l'État d'être exemplaire, puis de tracer la voie. Là.
Vous avez dit qu'en région, ça peut être un... Ce genre d'idée peut se conclure de façon précise. Si on régionalise cet enjeu-là, notamment dans la circonscription de Richemont, plus précisément dans la MRC des Sources, ouais. Qu'est-ce que vous avez à proposer?
Ben, par exemple, la centralisation qui a eu lieu dans le cadre du gouvernement libéral là, avec le docteur Barrette, ils ont centralisé les C3S, qui étaient les hôpitaux, vers les CIS puis les CIUS. Ben, à l'heure actuelle, l'hôpital de Val-des-Sources, pas l'hôpital qui décide de la nourriture qu'elle achète pour ses patients ou ses employés. Tout ça est centralisé à Sherbrooke, puis ils font des regroupements d'achats, tu sais. Puis ensuite, c'est transféré vers les institutions, par exemple, à Val-des-Sources. Ben nous, ce qu'on veut, c'est renverser cette tendance-là, faire en sorte que les institutions sont plus autonomes, de faire des choix eux-mêmes de l'alimentation qu'ils veulent donner à leur monde, mais selon certains critères précis, comme le 70 % d'achats locaux. Puis on pense que c'est ça qui va amener, là, en tout cas, qui va contribuer à atteindre une plus grande souveraineté alimentaire au Québec, là.
Dans la plateforme de Québec solidaire aussi, en agriculture, c'est mentionné que vous voulez favoriser l'accès aux terres agricoles, justement pour qu'elles restent abordables. Comment on y arrive?
Ben, un des outils qu'on a proposé, c'est la création de fiducies foncières agricoles un peu partout au Québec. Là, une fiducie foncière, là, pour ceux qui n'ont pas un doctorat en économie, là, c'est une structure qui nous permet d'acheter des terres puis qui les garder avec une vocation agricole à perpétuité. Quand une fiducie achète une terre agricole, ensuite, ça devient impossible de dézoner cette terre-là sans l'accord des fiduciaires. Puis les fiduciaires, ben, ce sont tous ceux qui en ont l'administration, là. Puis s'il y a dans le mandat de la fiducie de ne pas procéder à du dézonage, ben, c'est impossible de le faire. Donc, il y a déjà quelques fiducies qui existent comme ça un peu partout au Québec. Il y a Protecteurs, il y a l'UPA et Fonds d'action, là, de CSN qui en ont parti une. Ben, ces fiducies-là peuvent acheter des terres agricoles pour la relève, les garder à perpétuité avec une vocation agricole, puis ensuite la louer à des entrepreneurs pour qu'ils puissent ensuite ben, la cultiver. T'sais. Puis nous, on pense que c'est un outil qui va permettre aussi d'éviter la surenchère, là, parce qu'actuellement, les terres agricoles, elles augmentent de prix constamment depuis, je vous dirais, la Deuxième Guerre mondiale, là, puis avec une accrudescence marquée depuis 20 ans, là, où ça a augmenté d'à peu près 600 % en moyenne au Québec. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, mon REER n'a pas pris 600 % de valeur en 20 ans. Mais les terres agricoles, c'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est un frein pour les jeunes entrepreneurs pour s'établir en agriculture. En ayant cet outil-là à notre disposition, ben, on va être capable d'établir le plus de jeunes possible dans tous les villages du Québec.
Chers auditeurs, auditrices, on s'en va en légère pause publicitaire. On va couper l'entrevue en deux, malheureusement. On s'en va au top de l'heure, puisque, eh oui, nous changeons d'heure, nous allons être à 14h. On revient avec la suite de l'entrevue avec M. Pagé dans un instant, aux attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3.
Rebienvenue aux attachés de presse. On va continuer l'entrevue qu'on faisait avec M. Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire dans Richemont. On parlait d'agriculture, puis on parlait, dans le fond, de l'accessibilité des terres pour les nouveaux agriculteurs. Pour venir conclure ce sujet-là, est-ce que modifier la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pourrait être envisagé
ah,
pour
oui.
faciliter dans le fond, les nouveaux agriculteurs à avoir accès à des terres, là, parce qu'on le sait là, que au Québec, là, c'est quand même des grands joueurs là, qui possèdent les lots de terres.
Ben, c'est ça, il faut faire attention parce que la loi sur la protection du territoire agricole, actuellement, elle a été réformée par le gouvernement caquiste, là, il y a déjà de cela à peu près un an. Ils ont permis à des plus petits lots d'être dézonés pour en faire des terres agricoles. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que un petit lot, c'est aussi plus facilement achetable pour quelqu'un qui, par exemple, possède une propriété à Montréal, vend sa propriété à peu près $1 million, vient acheter une terre de, je sais pas, moi, mettons 10 hectares dans n'importe quel de vos villages, achète cette terre-là, il y a rien qui l'oblige dans la loi actuellement à la cultiver. Puis ça, c'est ça qui est un enjeu puis qui est un problème, parce que même si on crée des plus petits lots à l'heure actuelle au Québec pour permettre d'établir la relève, il n'y a rien qui nous garantit que ça va être comme ça à perpétuité. T'sais. Les jeunes entreprises, souvent, c'est des couples. On sait qu'un couple sur deux se sépare, puis un couple qui se sépare puis qui est en affaires, c'est très rare que l'entreprise survit. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, quand une entreprise arrête de fonctionner sur un lot agricole, il n'y a rien qui nous garantit que même s'il a été dézoné pour cette utilisation-là, que lorsqu'il va être revendu, il va être revendu à quelqu'un qui va vouloir en faire de l'agriculture. Tu sais. Les terres qui sont plus grandes, généralement, sont plus dispendieuses. Fait que ceux qui veulent simplement avoir une propriété domiciliaire le font pas. Fait que c'est certain qu'il faut modifier la loi sur la protection du territoire agricole. C'est dans le programme de Québec solidaire afin de faciliter, oui, l'accès, mais afin aussi de protéger les activités agricoles là, de ceux qui veulent en faire simplement de la spéculation, ce qui est un fléau, comme vous l'avez dit, là, au Québec puis dans nos campagnes.
On va parler de l'union de l'UPA. Dans la plateforme de Québec solidaire, on veut ramener peut-être un certain pluralisme au sein des syndicats agricoles. Comment que ça pourrait se traduire alors que l'UPA est foncièrement contre? Là, parce que il y a déjà eu un rapport là, au Québec, là, je me souviens plus du nom d'ailleurs.
Le rapport Pronovo.
Le rapport Pronovo, oui. La recommandation 47 qui était que l'UPA ne soit plus le seul syndicat agricole. On sait que l'UPA était vraiment très contre là, cette recommandation-là. Comment est-ce qu'on peut faire changer l'idée de l'UPA? Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce qu'on fait une loi en tant que telle?
Ben écoutez, un parti politique, faut comprendre aussi, surtout un parti politique comme Québec solidaire, là, c'est un parti de membres, c'est un parti de militants. C'est des gens qui prennent leur carte de membre, qui vont en assemblée, puis qui ensuite votent sur ce qui doit se retrouver dans la plateforme. Au début de l'année, nos militants ont souhaité que cette mesure-là se retrouve dans la plateforme électorale de notre parti. Faut dire que ça n'a pas été un vote là, qui a été unanime. Là. Ça a été un vote extrêmement serré qui a divisé profondément nos membres. On parle d'un vote qui a été passé peut-être à 51% contre 49%. Là. Fait que cette proposition-là, oui, se retrouve par nos membres dans la plateforme. Ensuite, les moyens qu'on va mettre en place pour, si jamais il y a un gouvernement solidaire, là, tu sais, pour mettre en place le pluralisme agricole, ça sera à voir. C'est certain que l'UPA est pas d'accord. Moi-même, dans la vie, là, je travaille pour l'Union des producteurs agricoles. Moi, personnellement, l'engagement que j'ai pris, c'est que je vais utiliser tous les outils disponibles par le parti pour démocratiquement convaincre nos membres que c'est pas une solution intéressante. Là. Mais ensuite, moi, ce que je crois, c'est que l'UPA, la forme qu'elle occupe actuellement, c'est ce qui permet aux producteurs d'avoir un gros rapport de force puis de les réunir contre les transformateurs, entre autres, qui sont leurs clients. Les transformateurs, c'est peut-être 6-7 grosses entreprises. Tu sais, quand vous pensez à vos supermarchés qui vendent les produits agricoles ou les produits alimentaires, il y a peut-être 4-5 joueurs qui existent. Moi, je pense que les producteurs agricoles qui sont à peine plus nombreux que les médecins au Québec méritent une seule organisation pour les défendre plutôt que plusieurs. Si on souhaite abolir le monopole syndical de l'Union des producteurs agricoles, il faut se poser la même question pour les autres. Là. Pourquoi les pharmaciens ont juste un syndicat? Pourquoi les artistes ont juste un syndicat? Puis à ce moment-là, moi, je pense qu'il y aura une décision à prendre dans les prochaines années à l'intérieur du parti là-dessus.
Mais vous voyez pas peut-être une problématique aussi pour les plus petits agriculteurs qui ne se font pas nécessairement partie de l'UPA, qui se doivent d'acheter des quotas? Là, je vais prendre l'exemple là, ici en Estrie, là, la femme croque-saison là, qui voudrait, là, si, par la demande qu'elle a, agrandir son élevage de poules, mais qu'elle peut pas parce que la loi lui dit ben c'est 100 maximum, sinon ben là, faut t'acheter des quotas qui sont régis par l'UPA, mais elle n'a pas les moyens nécessairement de payer. C'était 250$ environ là, par poule pour la production. Là. Est-ce que vous voyez pas un problème au niveau des quotas au sein de l'UPA pour les plus petits agriculteurs en région, surtout?
Ben, ce qu'il faut, moi, j'ai parlé souvent là, avec la propriétaire de la ferme Croque-Saison. Elle a pu bénéficier d'un programme, justement, là, des éleveurs de volailles du Québec qui lui ont permis de démarrer son entreprise. Puis elle a eu accès là, à vendre ses produits avec des marchés de proximité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique des quotas, c'est pour permettre à tout le monde qui ont ce droit de produire-là de bien en vivre. T'sais. Si on actuellement, la production de volaille est en adéquation avec notre consommation. On ne produit pas plus de volaille qu'on en mange, puis on n'en produit pas moins non plus. Fait que si on permettait à tout le monde de produire de la volaille, ben il y a des grosses chances que les gens aient un prix inférieur puisqu'il y aurait à ce moment-là une surproduction de volaille. Est-ce que ça fait en sorte que ceux qui veulent rejoindre le club des producteurs de volaille, c'est difficile pour eux? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? Oui. Mais la façon dont les contingents sont gérés, il y a la Régie des marchés agricoles qui s'en occupe, il y a les éleveurs de volaille aussi dont leurs membres là, prennent des décisions démocratiques. Puis je pense que actuellement dans la loi, tout est là pour être capable d'aider les jeunes agriculteurs à avoir du quota. Est-ce que c'est facile? Non, mais il y a une raison pour ça. Puis c'est parce que c'est ça qui permet à ceux qui produisent d'avoir un bon prix pour leurs produits. Moi, je souhaite à la ferme Croque Saison d'être capable d'acquérir ce quota-là un jour. Puis lorsqu'elles seront capables de le faire, puis lorsqu'elles l'auront, bien, c'est certain qu'ils auront un meilleur revenu puis une plus grande prospérité sur leur ferme.
Mais est-ce que d'augmenter les quotas pour Québec solaire, ça pourrait être aussi une priorité? Parce que quand on regarde les statistiques, le Québec, c'est la province qui a le plus bas taux de quotas en agriculture, tandis que les autres provinces canadiennes, là, des fois, c'est jusqu'à 10 fois plus là, pour certains animaux ou animaux.
Ben ça dépend. Il faut dire que la production de laitière, par exemple, il y a 5 productions qui sont sous gestion de l'offre là, au Canada, puis c'est géré d'une manière canadienne. Là. Le lait, les œufs, la volaille, le dindon. Là. Actuellement, c'est quand même régi par les offices de producteurs. Là. Fait que, donc, c'est pas le gouvernement qui arrive, puis qui impose, puis qui dit cette année, il devrait avoir tant de quotas. Là. C'est les producteurs entre eux, puis il y a une commission qui s'occupe de ça, qui détermine le nombre de quotas qui doit être alloué ensuite aux différentes entreprises. Pour moi, c'est pas un frein. Pour moi, actuellement, c'est très démocratique, puis ça permet aux producteurs, comme je vous disais, d'avoir un bon prix, puis d'avoir un prix stable aussi, tu sais, parce que s'il n'y a pas ce système-là, votre poulet pourrait varier du simple au double en prix à l'épicerie à chaque semaine. Les producteurs, les productrices auraient une moyenne de prévisibilité sur leurs entreprises. Fait que ce système-là, est-ce qu'il est parfait? C'est sûr que non. Mais je pense que c'est le moins pire qui existe. Puis je pense que c'est celui qui permet aux producteurs et aux productrices de gagner leur vie.
On sait qu'un enjeu important pour les agriculteurs et agricultrices au Québec, c'est la main-d'œuvre. Évidemment, là, avec la pandémie, là, ça a remis un peu de l'avant le fait qu'au Québec, il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère qui viennent travailler ici. Comment on peut remédier à la situation pour que ce soit plus davantage de Québécois qui travaillent dans le domaine de l'agriculture? Est-ce que ça passe davantage par l'automatisation, la mécanisation dans le fond, des terres agricoles, ou qu'on se soit...
Il y a plusieurs éléments de réponse dans ce que vous dites. Là. T'sais, premièrement, t'sais, c'est ça, c'est un enjeu de société. Là. On se cachera pas que l'attention qu'on donne à l'importance de l'éducation dans notre société a fait en sorte que dans les dernières décennies, travailler dans un abattoir, travailler pour cueillir des fruits et légumes à longueur d'année, il y a moins de Québécois puis de Québécoises qui ont envie de faire ces emplois-là. Ensuite, est-ce que de combler par des travailleurs étrangers temporaires des TET, qu'on appelle les TET, moi, je pense qu'il faudrait les transformer en TEP, là, des travailleurs étrangers permanents, de dire qu'on va bénéficier d'un pays comme souvent le Mexique ou le Guatemala, qui n'ont pas des administrations si fortes que les nôtres, qui n'ont pas des conditions de vie aussi favorables que les nôtres, pour aller chercher des gens puis les faire travailler dans nos entreprises agricoles. Moi, je pense que ça peut aider quand il y a une urgence, quand il y a une crise. Là, j'entendais le conseil du patronat la semaine dernière qui voulait qu'on étende les travailleurs étrangers temporaires au domaine de la restauration, au domaine de la construction, à d'autres domaines où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Moi, je pense qu'il faut faire des partenariats avec ces pays-là, s'assurer que les travailleurs étrangers temporaires puissent devenir permanents, qu'ils viennent s'établir dans nos campagnes, dans nos villes, puis qu'on en fasse des Québécoises puis des Québécois à part entière, puis que ces gens-là puissent contribuer à l'économie sans que ça se fasse nécessairement de cette façon-là qu'on le voit actuellement. Fait que je pense que ce serait la solution là, pour nous permettre de surmonter le défi de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit en ce moment. Là.
Parfait. Aussi, un autre enjeu aussi qui est présent dans le milieu de l'agriculture, c'est le manque d'abattoirs qu'on a au Québec. Pendant la COVID, là, on a vu là, des porcs qu'on a dû euthanasier parce que, bon, évidemment, bon, avec le milieu sanitaire, on pouvait moins, dans le fond, avoir de travailleurs, moins abattre d'animal. Ça aurait mis en jeu, dans le fond, la question des abattoirs. Là. Exemple, là, si je prends un producteur de Gaspé, là, s'il veut faire abattre son porc, ben il faut qu'il fasse à 425 km de chez lui. Est-ce que Québec solaire propose certaines solutions pour, dans le fond, rajouter des abattoirs au Québec.
Oui, oui, tout à fait. T'sais. Puis moi, je suis allé visiter une abattoir qui se retrouve dans ma circonscription à Racine, l'abattoir Lamarche, qui est en copropriété avec M. Lamarche, puis aussi la famille Bouffard, là, qui font du bovin dans le coin de Yearscliff. C'est eux qui ont les boucheries Face de Bœuf ici en Estrie. Et j'ai pu discuter longuement là, avec le propriétaire. Puis Québec solidaire, je pense, peut répondre aux problématiques là, que vivent déjà les abattoirs existantes. Là. C'est extrêmement normé quand vous avez un abattoir. Il y a trois types d'abattoirs, fédéral, provincial puis de proximité. Puis quand vous avez un abattoir, soit en tout cas provincial, comme ce serait le cas si on voulait qu'il y ait de la production qui se fasse ici, de la transformation, pardon, ça vous prend un vétérinaire en permanence qui surveille la ligne d'abattage, en permanence. Puis un vétérinaire, on sait que c'est un emploi qui est en pénurie actuellement. C'est des emplois qui sont syndiqués, parce qu'ils sont payés par le MAPAC, ces gens-là, pour surveiller des abattoirs privés. Puis là, un fonctionnaire, ça travaille de 8 à 4, là, tu sais, puis ça prend 1h30 de dîner. Fait que j'y enlève pas ces conditions de travail, tant mieux s'ils ont ça, mais ça nuit à la productivité de certains abattoirs qui, des fois, aimeraient ça commencer plus tôt, qui aimeraient ça finir plus tard. Mais c'est un goulot d'étranglement, là, cette nécessité-là d'avoir des inspecteurs en santé animale présents 24 à chaque fois que la ligne abat des animaux. Même chose pour un vétérinaire. Je pense qu'on serait capable là, d'alléger nos normes sans mettre en péril la salubrité des aliments. Par exemple, pour avoir des accréditations qui sont données à des employés pour surveiller ça. Je pense à tous les restaurants qui à Sherbrooke. Là, il n'y a pas un inspecteur du MAPAC qui est là dans chaque cuisine là, pour s'assurer que tout soit bien. Là. Fait qu'après, je pense qu'on a des normes qui sont extrêmement élevées au Québec dans l'abattage, puis que le privé sera capable de s'occuper de ça. Ensuite, Québec solidaire, nous, nos propositions, on souhaite mettre sur pied un réseau d'abattoirs provincial dans chacune des régions du Québec sous une formule plus d'OBNL qui serait capable d'abattre multi-espèces, là, pas simplement du bovin ou du porc, là, mais aussi des lapins, de la volaille, puis de mettre ça à la disposition de nos productrices puis nos producteurs agricoles. Ce serait la façon là, qu'on aurait de éviter ce transport-là là, qui n'a pas d'allure entre les régions peut-être plus périphériques là, qui vont vers les grands centres où les abattoirs se retrouvent. Puis il faut pas oublier qu'il y a une très grande concentration des entreprises dans le milieu de l'abattage. C'est ça aussi qui fait qu'on est dépendant de ces grosses entreprises-là lorsqu'il vient le temps de faire abattre nos animaux. Puis lorsqu'on vit des crises comme la COVID, comme une fermeture de frontières ou comme même un débrayage des employés, ben ça met en péril ensuite toute la chaîne alimentaire. On est obligé de faire de l'euthanasie d'animaux, des fois jeter même du lait. Puis je pense que c'est pas acceptable là, en 2022 de faire du gaspillage alimentaire de cette façon-là.
En conclusion sur l'agriculture, après ça, on va aller brièvement là, sur les enjeux qu'on a ciblés pour les Rock Forest. On n'aura pas le temps? OK. Bon, ben, dernière question pour vous aujourd'hui. Gabriel Nadeau-Dubois avait parlé de la taxe sur les millionnaires là, ouais. qu'il voulait mettre en place, là, votre court porte-parole. Lorsqu'il a été questionné sur les agriculteurs, s'il faisait en partie, au début, il avait répondu oui, ça va faire partie, puis aussi en lien avec le patrimoine, l'héritage, tout ça. Il s'est rétracté un jour après. Par rapport aux agriculteurs pour dire que les terres agricoles n'allaient pas être incluses dans cette nouvelle taxe sur les millionnaires. Comment vous avez réagi comme directeur de la Fédération des rêves agricoles, puis aussi comme, évidemment, bon candidat aussi qui connaît très bien le domaine de l'agriculture?
Ben, tu sais, si je veux pas faire de sémantique, là, mais ça, on s'est pas rétracté, on s'est corrigé. C'est-à-dire que quand on a fait cette annonce-là, il y a un journaliste qui a questionné à savoir s'il y avait des exemptions à cette taxation-là. La réponse que notre candidat aurait dû donner, c'est oui, il y en a une, était dans notre programme. Cette exemption-là, ce sont les terres agricoles. Les terres agricoles, c'est un actif pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, mais la croissance de son prix, puisqu'elle se fait naturellement, puisqu'on est dans un contexte spéculatif, une terre, ça peut prendre 20% de valeur en un an, là. Puis ensuite, l'année d'après, ça peut reprendre un autre 15%, puis un autre 10% l'année d'ensuite. Fait que même si vous avez un emprunt sur cet actif-là, à un moment donné, le prix se distancie de l'emprunt que vous avez pris, puis c'est ça qui cause une distorsion, puis c'est pourquoi on l'a exempté dans notre taxe qu'on veut faire sur ceux qui ont 1 million d'actifs nets, je le rappelle, là, d'une fois déduit du passif. Fait que moi, ma réaction, elle a simplement été, bon, un peu de frustration, là, que la nouvelle a été mal sortie, puis qu'on a dû ensuite corriger le tir, là, avec l'Union des producteurs agricoles le lendemain. Mais moi, je suis directeur général de la Fédération de la relève agricole. J'ai grandi sur une ferme. Moi, c'est mon frère qui a pris la relève de l'entreprise familiale à Saint-Camille, où je vis toujours. Puis, je me serais pas lancé avec Québec solidaire si on avait des propositions qui nuisaient à la relève, là. Pour moi, l'imposition lorsqu'on dépasse le million de dollars d'actifs nets, pour moi, c'est raisonnable. Ça touche simplement 5 % des Québécois. On leur demande de contribuer 1 000 de plus par année lorsqu'ils ont un actif net de 1 million. Cette mesure-là va nous permettre d'aller chercher 2 milliards de dollars dans les poches des gens les plus riches du Québec, les 5 % les plus riches. Puis ça va nous permettre de financer la transition écologique qu'on veut mettre en place à Québec solidaire dans les prochaines années.
Monsieur Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire dans Richemont, merci beaucoup pour votre temps et avoir répondu à nos questions sur l'agriculture. On aurait pu discuter encore plus longuement de d'autres enjeux. Donc, on s'en va en courte pause publicitaire, puis on continue après ça nos entrevues avec Monsieur André Bachand, député sortant de la CAQ dans Richemont.
C'était les attachés de presse sur les ondes de CFA 88.3. Ça part ici. Re-bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFA 88.3. Et maintenant, notre troisième entrevue avec Monsieur André Bachand, député sortant de la circonscription de Richemont et candidat pour la Coalition Avenir Québec, mais aussi un ancien maire de la ville de Val-des-Sources, un ancien député au niveau fédéral. Monsieur Bachand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation tout d'abord. C'est hyper apprécié.
C'est la moindre des choses.
Tout d'abord, une question par rapport à votre premier mandat au sein de la Coalition Avenir Québec de 2018 à l'heure actuelle. Nous aimerions savoir, êtes-vous satisfait du travail que vous avez réalisé? Quel dossier que vous êtes content que dans votre circonscription, on a pu voir du progrès? Ou à l'inverse, quel dossier vous avez hâte de retravailler si jamais vous êtes élu lors de l'élection du 3 octobre prochain?
Mais c'est sûr qu'on a connu un mandat, disons, exceptionnel, extraordinaire dans tous les sens du mot. La job de député, c'est vraiment d'abord le service à la clientèle, aux citoyens. Ça, on n'en entend jamais parler. Tu sais, des gens qui viennent à ton bureau, qui t'appellent, qui ont des problèmes avec le Québec, etc., etc. Ça, je suis content. On fait avancer les dossiers, on règle les dossiers. On fait pas de miracle, cependant. Alors, le service aux citoyens, malgré la pandémie, je suis quand même très satisfait. Les dossiers plus apparents, ben c'est des dossiers qui traînaient depuis très longtemps. Le gaz naturel à Richemont, la 257 dans la MRC des Sources pour relier la montagne du Mont-Ham. Alors, c'est des dossiers comme ça qu'on est très fiers d'avoir pu réaliser malgré la pandémie. Et la chose que je regrette le plus, c'est cette mauvaise pandémie de COVID-19 qui a retardé les dossiers et qui a mis quand même beaucoup de pression sur la population.
Justement, vous parlez de COVID-19 et des dossiers qui ont retardé. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête? Si je peux même spécifier un petit peu plus les enjeux, notamment du côté de la MRC des Sources, plus précisément à Val-des-Sources, parce que de manière transparente, je suis un habitant de la place, puis c'est des enjeux-là, ils viennent quand même me toucher particulièrement. Est-ce que vous aviez un enjeu spécifique que vous vouliez mettre de l'avant lors du prochain mandat, le mandat prioritaire?
Oui. Pour la MRC des Sources, je te dirais qu'on s'en est bien sorti. Okay? Comme tu sais, donc, la route de la 257, ça faisait 60 ans que la route devait être faite pour, parce que c'est une route qui n'est pas sécuritaire. C'est toute la question du développement de Saint-Adrien et d'un sud et de la montagne, comme je disais tantôt. Donc, pour la MRC ici, avec la prise en charge des gens du milieu depuis un bon bout de temps, ça va quand même bien. Écoute, on n'est pas sorti du pétrin complètement, mais il y a une diversification, comme tu sais, que c'est mis en place. Et au niveau des services à la population, par exemple, on va avoir un nouveau CPE ici à Val-des-Sources de 63 places. On va avoir du logement abordable pour nos personnes qui sont sur les 5 ans et plus, mais qui ont moins de revenus. Alors, ce sont des gestes comme ça. C'est toujours l'équilibre dans l'approche. Alors, dans la MRC des Sources, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des problématiques des fois plus locales. Exemple, dans la municipalité de Denville, il y avait des petites problématiques qui sont en train d'être réglées. Parce qu'il y a tellement de potentiel ici, c'est absolument incroyable. Donc, on travaille avec les différents partenaires. C'est sûr qu'on donne des ressources aussi, entre autres au niveau de la MRC, des ressources supplémentaires humaines et financières pour aider à la diversification économique. On n'a pas le choix de le faire. Il faut se diversifier. Comme si on était une ville mono-industrielle minière pendant très longtemps. Mais là, maintenant, on voit là, que ça, les gens se prennent en charge et ça va de mieux en mieux.
Je veux vous lancer vers la situation du lac des Trois-Lacs. En fait, la contamination du lac, on le sait que, notamment sur le plan de la myriophilie IP, où est-ce que, bon, la contamination du lac est à un point relativement concret. Je sais que la Coalition Avenir Québec, mais en fait, nous savons, pardonnez-moi, que la Coalition Avenir Québec a présenté son fonds bleu pour protéger nos lacs et nos rivières.
Oui.
Comment vous pensez mettre de l'avant cet enjeu-là à Val-des-Sources, puisqu'il est quand même assez important, mais qui touche aussi d'autres municipalités, avec votre promesse du fonds bleu pour les lacs et les rivières?
Oui, exactement. Donc, la promesse, parce que dans chaque région du Québec, il y a des problématiques avec les cours d'eau, avec les lacs, les rivières, tout ça. Donc, on s'est dit, ça va prendre un plan provincial, parce que il faut trouver la bonne solution ou les bonnes solutions, parce que, comme vous savez, aux Trois-Lacs. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs essais, plusieurs. On a mis quand même beaucoup d'argent depuis longtemps pour trouver des solutions, que ce soit des tapis, que ce soit d'arracher, etc. Et on se demande si c'est la bonne solution. Donc, avec l'annonce du gouvernement, c'est que toutes les bonnes expériences qui se font ailleurs pourront être appliquées dans les plans d'eau comme le Trois-Lacs. Mais c'est pas facile à régler. C'est pas facile, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a différentes solutions, mais on n'a pas le choix. C'est de l'eau, c'est notre eau. Alors, on doit la protéger autant pour comme potable, mais aussi pour la baignade, la villégiature, etc. Donc, c'est un dossier qui ne s'agira pas demain matin, mais au moins, il y aura les sommes d'argent et une belle cohésion avec le changement, avec le partage d'expériences partout au Québec, qui pourront être appliquées un peu partout. C'est vrai pour les Trois-Lacs, c'est vrai pour le lac Brompton, c'est vrai pour partout.
Par rapport aux Trois-Lacs, nous savons qu'il y a certains citoyens qui se plaignent de l'utilisation du lac, notamment avec des bateaux avec des moteurs un petit peu trop élevés pour le type de lac que nous avons. Est-ce que vous pensez qu'au-delà d'investir de l'argent dans des solutions, quoi que ce soit, il faudrait peut-être réglementer un peu plus l'utilisation des installations nautiques ou de l'utilisation même de notre lac à ce point-ci?
Oui, vous savez que les Trois-Lacs, c'est pas aussi grand que le lac Brompton, c'est quand même petit. Et puis l'année passée, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais ceux qui sont venus aux Trois-Lacs, il y avait tellement de bateaux, de pontons, c'était incroyable, ça n'était même dangereux.
C'est une situation qu'on ne peut pas répéter, là, effectivement. Là.
Non, exactement. Donc, il y a moyen, c'est sûr que nous, on n'a pas vraiment de contrôle au provincial là-dessus, mais un plan d'eau comme les Trois-Lacs, les bateaux à moteur devraient être soit limités en termes de nombre de forces, en termes de quantité aussi. On a moyen de dire, après tant d'embarcations moteurs sur un lac, ça serait bien qu'on puisse en limiter le nombre, que tout le monde puisse y participer d'une façon sécuritaire, dans un tour de rôle. Alors, si on est capable d'attendre pour un manège, on est capable d'attendre son tour pour profiter du plan d'eau des Trois-Lacs. Mais en même temps, au niveau du gouvernement provincial, on a peu de levier là-dessus. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on devrait même interdire, exemple, dans un plan d'eau comme les Trois-Lacs, les bateaux moteurs complètement? Ça, c'est une grande discussion qu'il va falloir avoir éventuellement. Mais moi, a priori, je ne suis pas pour l'interdiction, plutôt pour avoir le programme d'éducation aux gens, et peut-être de limiter le nombre de bateaux ainsi que la puissance de moteur.
On va changer de sujet un peu, M. Bachand. La mairesse de Sherbrooke, Mme Baudin, au dernier conseil municipal, a littéralement lancé un cri du cœur par rapport au financement des municipalités au Québec. Elle fait référence aux baisses d'impôts des différentes parties, comme quoi, ben en fait, il y a 4 des principaux partis au Québec qui permettent des baisses d'impôts. Elle a mentionné que les municipalités ont vraiment besoin de financement afin de financer les infrastructures publiques. Elle a mentionné que 58% des infrastructures publiques sont sous la charge de responsabilité des municipalités, excusez-moi, mais qu'elle ressort seulement 8%. Madame Baudin réclame, comme plusieurs municipalités au Québec, 1% de la TVQ afin de financer adéquatement les infrastructures publiques. Croyez-vous que l'intervention puis le financement des municipalités sont la clé pour certains enjeux importants de la campagne comme l'environnement, la crise du logement, jusqu'à un certain point, l'accès aux ressources en santé mentale dans certains organismes?
Oui, mais il ne faut pas donner plus de pouvoir aux municipalités qu'elles en ont. Je pense qu'ils ont amplement de responsabilités, de pouvoir. Pour ce qui est du financement, ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est qu'on a signé un nouveau pacte fiscal et derrière, les deux unions municipales, autant l'UMQ que la SQM, étaient contentes et ça a été la ville de Sherbrooke. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie et les municipalités se sont trouvées avec un manque d'argent. Le gouvernement a été présent, très présent. Alors, est-ce que aujourd'hui, il y a encore une nécessité de les aider financièrement? Oui, bien sûr. On les laissera jamais tomber, les municipalités. De là à dire, de donner un point de TVQ, dans le pacte fiscal et dans les annonces subséquentes qui ont suivi, le montant a été octroyé. Mais le gouvernement provincial veut se garder ce pouvoir de taxation, comme les municipalités gardent le pouvoir de taxation foncière. Mais est-ce qu'il y a des défis au niveau du financement des municipalités? Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on les accompagne. Mais peut-être pas en transférant des points de taxes de vente, mais en les aidant de façon, non pas ponctuelle, mais avec un financement à la mission des municipalités, c'est-à-dire qu'ils soient capables de remplir leurs responsabilités pour les citoyens qu'ils représentent, effectivement, parce que c'est un gouvernement de proximité. Alors, on a été là durant 4 ans. Est-ce qu'on peut en faire plus? On peut toujours en faire plus. mais on va le faire avec en accompagnant, par exemple, toutes les municipalités et les deux unions.
Au-delà du financement des municipalités, vous le savez, nous le savons, vous avez été maire, donc oui. vos connaissances en affaires municipales, vous les connaissez. Est-ce que du côté de la Coalition Avenir Québec ou de votre côté personnellement, quels devraient être les enjeux importants concernant les relations municipales et provinciales lors du prochain 4 ans? Est-ce que vous avez, parce que là, à l'heure actuelle, c'est un enjeu qu'on, à l'heure actuelle, au moment de la campagne, on en parle moins plus que d'autres enjeux où est-ce qu'on met de l'avant, mais est-ce que vous avez certaines idées ou certaines promesses que vous avez en tête pour les relations municipales et provinciales?
Ben, ce qu'on a réalisé, entre autres, ce qu'André Laforêt, la ministre des Relations et des Affaires municipales, a fait, c'est un lien de proximité avec les municipalités. Les municipalités sont notre partenaire privilégié. Et c'est pour ça que, comme je disais tantôt, on a renouvelé le pacte fiscal, augmenté les sommes d'argent, entre autres, au niveau du transport en commun. On sait que les ressources financières ont diminué beaucoup durant la COVID. Donc, exemple, Sherbrooke, si je ne me trompe pas, c'est près de 17 millions qu'ils ont reçus supplémentaires. Donc, les sommes d'argent sont là, mais c'est ce que les municipalités demandent, c'est d'avoir plus de prévisibilité, et ça, je suis d'accord. Quand j'étais maire, on a toujours demandé au gouvernement, donnez-nous un financement prévisible pour que nous, on soit capables, les municipalités, de prévoir nos travaux, de prévoir notre financement et de prévoir nos hausses ou non de taxes. Alors donc, ce que je retiens de ce que vous me posez comme question, c'est que les municipalités ont besoin d'un coup de main, c'est sûr, mais surtout de prévisibilité financière.
Super. Pour un enjeu qui touche votre circonscription, puisque oui, la circonscription de Richemont a un grand territoire, elle va jusqu'à Rock Forest, dans le surtout l'arrondissement de Rock Forest, Saint-Élie, Deauville, à Sherbrooke. Vous savez, nous savons, il y a un gros enjeu à l'heure actuelle d'accessibilité et de fréquence des transports en commun à l'heure actuelle. On sait, si on est à Rock Forest, c'est plus difficile et compliqué d'utiliser un transport en commun viable pour aller au centre-ville de Sherbrooke, notamment. Est-ce que vous, la Coalition Avenir Québec, ou même vous, personnellement, vous croyez que vous avez certains propos à avouer là-dessus, ou est-ce que vous avez certaines idées ou solutions par rapport à cet enjeu qui va toucher de plus en plus les Sherbrookois dans les années à venir? Là?
Oui, effectivement, vous avez raison. Le comté de Richemont, c'est le troisième plus nombreux populeux au Québec. C'est pas le plus grand, mais le troisième avec 80 000 personnes. Puis comme vous dites, vous avez raison, 40 000 en milieu urbain, donc on connaît c'est Deauville. Et 40 000 dans 21 municipalités rurales ou semi-rurales. Pour ce qui est de toute la question du transport en commun avec la STS, effectivement, on sait, on travaille avec la STS, la ville de Sherbrooke là-dessus, sont en train de revoir aussi la maximisation des circuits. C'est jamais facile parce que c'est très complexe, c'est extrêmement coûteux aussi, mais on les accompagne là-dedans avec, entre autres, son président. Alors donc, il y a des discussions qui se font pour améliorer l'offre de service, mais en même temps, oui, il faut améliorer l'offre de service, mais toujours la question, entre guillemets, là, de rentabilité des différents circuits. Alors donc, c'est sûr que c'est pas juste à Rock Forest, mais un peu partout sur le territoire de la municipalité, de la ville de Sherbrooke, il y a des problématiques de transport, mais nous, on travaille, la STS est bien positionnée, elle est sur le terrain, il fait un bon boulot, puis nous, on va les accompagner là-dedans pour la réalisation.
Vous parlez de l'accompagnement avec la STS. De quelle façon oui. vous les accompagnez? Et si je peux continuer dans ma question, qu'est-ce qu'on doit prioriser pour ce genre d'enjeu? Est-ce que c'est plus un financement soutenu ou au contraire, c'est plus essayer de construire ou d'évaluer les besoins et de construire un système de transport en commun un petit peu plus structuré à l'heure actuelle pour les besoins, puisqu'on le sait, le Rock Forest et l'arrondissement n'a pas été formé ou n'est pas 100% efficace pour le trajet en autobus notamment. Donc, oui, comment vous accompagnez la STS dans votre travail?
Effectivement, puis même d'ailleurs, sur un sujet lié à ça, c'est qu'on parle beaucoup, de plus en plus, d'une école secondaire dans le secteur Rock Forest. Alors, et la question du transport, vous avez raison, va devenir une question importante. Si on construisait une école secondaire dans le secteur Rock Forest, par exemple, je vous dis pas qu'il va en avoir une, mais la question du transport a été soulevée à plusieurs reprises. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que la STS, la ville de Sherbrooke, connaît ces problématiques. C'est pas à nous à venir dicter à la STS quoi faire. Au contraire, nous, on est là pour les accompagner parce qu'ils connaissent les problématiques, ils connaissent leur population. Alors, nous, on est là pour les accompagner. Donc, la STS a des projets, la STS veut changer des choses. On va être là pour les accompagner, bien sûr, financièrement, si c'est nécessaire, bien sûr.
Vous en avez parlé un peu brièvement, là, évidemment, de l'école secondaire. Là, on vous a vu avec les deux candidates, là, avec la députée sortante, là, Mme Hébert, puis la candidate dans Sherbrooke, Mme Saint-Hilaire, faire l'annonce d'une nouvelle construction, en fait, d'une nouvelle école Montcalm. On le sait que la pandémie a amené davantage de gens à venir s'installer dans les régions du Québec, puis l'étalement urbain aussi. L'enjeu des nouvelles écoles, aussi à Rock Forest, là, une école secondaire, là, c'est quand même assez criant. Là. Vous avez mentionné justement que... Il n'y aura pas d'annonce pour nécessairement une nouvelle école secondaire, là. Mais est-ce qu'il va y avoir des agrandissements des écoles qui sont déjà présentes dans la dans cette tranche-là de Sherbrooke où il va en faire peut-être une annonce là, pour desservir là, la population qui a besoin là, de nouvelle école là, pour la, à cause de l'exode?
Oui, oui, parce qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a premièrement les agrandissements. Alors donc, pour que les écoles offrent un service avec la croissance démographique de leur milieu, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la mise à niveau. Hein, Mitchell-Montcalm, là, c'est de dire que ces écoles-là ont besoin d'une mise à niveau, donc une construction neuve. Et ce qu'on va faire avec le bâtiment par après, on va en faire une école de francisation pour nos immigrants puis nos travailleurs temporaires étrangers. Donc ça, c'est un projet qui est annoncé, comme vous le disiez. Pour ce qui est des écoles, effectivement, il y a une demande qui est très forte. Si je regarde dans mon comté, proche de Sherbrooke, Saint-Denis-de-Brompton, qui connaît une croissance démographique absolument exceptionnelle. Donc, pour 2-3 ans, ça va être des classes modulaires. Puis quand je dis des classes modulaires, je ne parle pas de roulettes de chantier. Là. Les gens peuvent aller voir, c'est quand même de très haut niveau. Mais c'est sûr que construire une école, ça prend du temps, ça coûte extrêmement cher. Je regarde dans le comté de Richmond, on a annoncé des agrandissements. Il n'y a pas tellement longtemps, mais il y avait même l'agrandissement à Saint-François-de-David-Brompton qui est retardé d'un an parce que il y a eu la grève des ingénieurs, mais les coûts ont explosé. Donc, autant pour les municipalités que pour le gouvernement du Québec, il faut revoir les ressources financières pour les projets parce que ça coûte une fortune. Mais les écoles, c'est une priorité du gouvernement. On a investi des sommes d'argent en record, mais on n'est même pas encore capable de reprendre le retard tellement il y a de travail à faire.
Justement, vous avez mentionné pour les écoles, il y a une nouvelle école qui est annoncée à Sherbrooke, mais pourquoi il n'y en a pas une dans votre circonscription, dans ce secteur-là de la ville, à Saint-Denis-Brompton, justement? Là? Parce que sinon, ça peut avoir l'air pour les électeurs là, un peu d'une promesse électoraliste. On va promettre une école dans une circonscription qui n'appartient pas à CAQ, mais aussi il y a un besoin de d'autres écoles dans la circonscription juste à côté, là, qui est la vôtre. Là.
Mais l'école à Saint-Denis va se faire. C'est pas une promesse, c'est une obligation de toute façon. C'est-à-dire, quand tu es rendu à mettre des unités modulaires, c'est parce que il faut donner une place à tes étudiants, tes garçons et tes filles. Alors ça, ça va se faire. Mais de prendre, de se dire on va réaliser ça demain matin, ça prend 2 à 3 ans. C'est beaucoup de démarches administratives, des architectes, puis des architectes, là, entre vous et moi, là, sont très occupés ces temps-ci. Alors donc, à Saint-Denis, ça va se faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et si je regarde dans mon comté, l'agrandissement de l'école à Racine, ça va se faire. Avec le gymnase d'eau de Saint-Georges de Windsor, ça va se faire. Saint-François-Xavier de Brompton, c'est retardé, mais ça va se faire l'année prochaine, la rénovation et l'agrandissement. Donc, on met beaucoup d'argent, on met beaucoup d'efforts, mais on ne choisit pas que c'est un comté caquiste ou solidaire. On y va avec la démographie, on y va avec les besoins des enfants dans nos communautés.
On l'a dit plus tôt en entrevue, vous avez été, vous êtes un ancien maire d'Asbestos, là, donc vous avez pu voir l'évolution de la ville au cours des dernières années. Est-ce qu'il y a une manière pour davantage développer les petites municipalités pour qu'elles deviennent viables, puis aussi encourager les gens à ne pas quitter les petites municipalités comme qu'il y a dans votre circonscription?
Mais l'idée, c'est pour venir à la base. Hein? Donc, dans une municipalité, on doit retrouver des emplois, si possible diversifiés, parce que sinon on est pris avec une entreprise, donc de diversifier les entreprises qu'on a sur le territoire. Puis après ça, ça devient la base. La base, c'est quoi? Ça prend du logement, des maisons, ça prend un CPE, ça prend des écoles. Alors, c'est vraiment à la base. Et c'est pour ça qu'on se bat pour garder nos écoles, que ce soit à Saint-Adrien, que ce soit à Waterton, partout. Nos services de garde, comme je disais, on a annoncé des nouvelles garderies à Saint-François-Xavier de Brompton, à Racine, à Val-des-Sources. Donc, c'est l'offre pour développer une municipalité, c'est la base. Alors, est-ce que tu trouves une épicerie, un dépanneur, un CPE, etc., etc., comme je disais. Et c'est comme ça que la municipalité va se développer, en plus de l'aspect plus entreprise, commerce, industrie.
Je voulais revenir. sur vos propos plus tôt cette semaine, lors de votre annonce, vous, Mme Hébert et Mme Saint-Hilaire, par rapport à l'environnement, vous avez, les trois, vous et vos collègues, vous avez critiqué le plan environnemental de Québec solidaire et vous pointiez du doigt le parti en disant que c'est vous inciter à la co-anxiété des individus. Moi, nous, ce que nous voulons savoir, c'est, vous, de votre côté de la Coalition Avenir Québec, comment, quelles sont vos mesures pour vraiment combattre l'environnement? Vous avez mentionné notamment que vous allez miser sur la transition énergétique et les infrastructures déjà présentes, notamment le parc solaire de l'Université de Sherbrooke. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut être bénéfique pour la ville de Sherbrooke, mais aussi la population en général, notamment sur le plan des changements, sur le plan des changements climatiques?
Okay. Je veux juste revenir que la question n'était pas sur les plateformes des différents partis au niveau de l'environnement, des changements climatiques. La question était qu'il y a un constat que les jeunes font beaucoup d'éco-anxiété. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez de la question de l'éco-anxiété? Et ma réponse était très claire. Je n'ai même pas parlé du programme de Québec solidaire ou du PQ, ça, absolument pas. J'ai dit, lorsqu'un parti annonce son programme environnemental, puis il dit que c'est le plan de la dernière chance, c'est ça le titre du programme, plan de la dernière chance. Ça veut dire que là, si ça ne se réalise pas demain matin ou d'ici 4 ans, on est tous dans la merde. C'est ça que ça veut dire. Si c'est pas, si c'est, ça ne vient pas augmenter le risque d'éco-anxiété, je ne sais pas ce que ça peut faire. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'était irresponsable d'appeler un plan, de se dire les meilleurs, en disant que notre plan, c'est le plan de la dernière chance, c'est avec nous, vous allez survivre, ou sinon, vous allez faire autre chose. Alors, c'est sur ce point-là très précis, mais je ne suis pas rentré dans les plans là, de 55%, nous, c'est 37%, de 90% par rapport à 2030. On n'est pas rentré là-dedans, c'est très technique. C'était sur la question de l'éco-anxiété. Je pense que chacun d'entre nous avons une grande responsabilité au niveau environnemental. Tout le monde reconnaît, de notre côté, on reconnaît les changements climatiques depuis longtemps. Les changements climatiques, mais aussi l'environnement. On s'est engagé à faire la consigne du verre. Ça devait arriver en 2022, ça va arriver en 2023. Donc, et pour nous, un plan environnemental doit être crédible, dans le sens qu'on doit être capable d'atteindre des cibles pour pouvoir garder la motivation des gens à maintenir la lutte contre les changements climatiques et pour l'environnement. Donc, nous, on croit sincèrement qu'on a un bon plan d'action. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça va jusqu'à dire que c'est le meilleur? Absolument pas. Mais on a un plan qui est crédible avec des cibles qu'on va atteindre. Et c'est comme ça qu'on va être capable de créer une crédibilité dans la population communautaire pour aller plus loin par après.
Justement, quelles sont vos solutions pour atteindre vos cibles, justement, de manière plus concrète?
L'électrification des transports, hein, 40% là, des GES qu'on fait au Québec, c'est le transport. Donc, ça, c'est clair. Puis, on a une ressource qui s'appelle l'hydroélectricité, l'électricité. Donc, je dis l'électricité, l'hydroélectricité, parce que ce que le premier s'est annoncé, c'est sûr que l'hydroélectricité va demeurer notre force, hein, notre force brute, mais on va y aller avec de l'éolien, on va y aller avec du solaire, parce que le solaire, comme lorsqu'on était à l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire avant, ça prenait, je ne sais pas comment, décorer, pour faire un kilowatt-heure avec le solaire. Maintenant, les technologies sont tellement améliorées. Donc, le Québec va demeurer un des plus grands producteurs d'électricité au monde, mais avec différentes sources. Parce qu'il faut s'attaquer au transport. Et le transport, c'est notre premier objectif, parce qu'on est capable de le contrôler plus facilement. Pour les grandes entreprises, c'est plus difficile, c'est plus à moyen et à long terme, mais pour le transport, ça peut se faire quand même assez rapidement, tout étant relatif. Donc, dans 3 à 5 ans, on pourrait faire en sorte que notre flotte soit beaucoup plus verte et à ce moment-là, diminuer les gaz à effet de serre. Ça, c'est un exemple. Mais c'est un exemple qui est crédible, puis c'est un exemple qu'on peut le faire parce qu'on a les ressources pour le faire.
Vous parlez, dans le fond, d'énergie éolienne, énergie solaire. Est-ce que l'Université de Sherbrooke va pouvoir, via ses chaires de recherche, avoir un rôle à jouer, justement, pour développer davantage ces modes de production d'énergie-là? Est-ce que l'Université va avoir un rôle à jouer? Puis aussi, par rapport à l'efficacité énergétique aussi, tu sais, c'est bien beau là, de dire qu'on va produire plus d'électricité, là, mais aussi un des enjeux importants, c'est l'efficacité énergétique, là, c'est de réduire un peu via, dans le fond, l'innovation, technologie, notre consommation d'électricité. Là.
Oui, puis de faire en sorte que ceux qui fonctionnent à l'électricité, dorénavant, en prennent moins. Alors que ce soit tous les appareils de cuisine, soit n'importe quoi, c'est d'en prendre moins. On l'a fait beaucoup, exemple, les ampoules, hein? Les ampoules fluorescentes à l'air d'elles, tu sauves une fortune. Donc, c'est tous ces petits gestes-là ou ces grands gestes-là qui qui vont aider. Puis c'est sûr que l'Université de Sherbrooke va jouer un rôle important. Il joue un rôle important parce qu'on est chanceux au Québec, en Estrie, on a l'Université de Sherbrooke. C'est la plus grande université hors Québec et Montréal. On est privilégié d'avoir cette université-là. Et c'est sûr que l'Université de Sherbrooke est à l'avant-garde sur plusieurs dossiers. Mais aussi, il faut faire affaire avec les entreprises privées. Exemple, pas loin de Val-des-Sources, comme vous savez, on a Kixéphas, Boralex. Alors donc, Boralex fait un peu de solaire, mais fait beaucoup d'éolien. Et c'est à côté de chez nous. Donc, encore une fois, même l'éolien, on est capable d'améliorer les pales pour qu'à chaque tour que l'éolienne fait, elle produise plus d'électricité à moindre coût. Donc, et toute cette technologie-là est en évolution. Et le Québec est très, très, très bien positionné, surtout ici en Estrie, avec l'Université de Sherbrooke. On est très privilégié, encore une fois.
Monsieur Bachand, merci infiniment pour votre temps à l'entrevue. Ce fut très apprécié.
Merci beaucoup. Puis, content de parler à un Val-sourcien.
merci, c'est très apprécié de vous apprécier. Puis, on vous souhaite une excellente suite pour la campagne. Là.
Très apprécié, t'es gentil. Au plaisir. Merci.
Au plaisir. Et sur ce, chers auditeurs, on s'en va en courte pause publicitaire. Au retour, on conclut cet épisode chargé en politique. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse. Votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Après trois bonnes entrevues, trois longues entrevues, on est juste nous trois. Ça fait un peu bizarre. Mais... non, sans farce, messieurs, on voulait, mes chers auditeurs, on voulait discuter de du résultat de la chefferie du Parti conservateur du Canada qui, honnêtement, elle m'a surpris, mais pas tant que... Mais en même temps, oui, mais non, le résultat du vote a été unanime en faveur de Pierre Poilievre. Félix, je ne sais pas si tu voulais nous glisser un mot là-dessus, justement, là, les résultats et tout.
Oui, justement, comme surprenant, mais pas vraiment, comme tu l'as mentionné, parce que tout le monde savait un peu que Pierre Poilievre allait gagner.
Il avait le vent dans les voiles, là, surtout. Là.
Oui, oui, c'était quasiment impossible qu'il perde avec la campagne qu'il a menée puis le nombre de militants et de dons qu'il avait. Il a gagné à 68 % des votes contre 13 % contre Jean Charest, qui était son plus proche partisan.
Ben, en fait, sur le mode de scrutin préférentiel, notamment, donc il a battu M. Charest dès le premier tour. Mm-hmm. C'était unanime. Qu'est-ce que tu penses du résultat, notamment?
Résultat unanime, comme tu mentionnes, c'est rare que les élections, la course à la chefferie se résout en un tour. On pense que juste à Renaud Tour, ça a pris 3 tours. Pour Andrew Scheer, ça en a pris encore plus. Donc, un tour, c'est très surprenant, c'est très vite.
Je pense qu'Andrew Scheer, c'était 15 tours. Hein?
C'était 13.
13 tours, ouais. Contre Maxime Bernier. Là.
Ouais, ouais.
Là, en un tour, on peut dire que les conservateurs, là, ceux qui ont voté, ont fait un vote.
Un vote de confiance.
Ouais.
Bon, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que ce résultat-là montre le développement d'un parti conservateur qui se dirige encore plus vers la droite. On dirait que les tentatives de. Je peux dire l'expression ainsi, virer au centre. Et un peu voué à l'échec, puis on veut se tourner faire un candidat comme Poilievre qui est unanime au niveau de sur la sphère gauche-droite, mais droite, on pourrait dire vraiment plus à droite que M. Charest. Donc ça, qu'est-ce que ça amène comme futur pour le Parti conservateur du Canada?
Bien, plusieurs avaient mentionné que le parti peut-être allait être divisé après ce vote-là. Honnêtement, avec un taux de confiance à 68% pour M. Poilievre, le parti est peut-être moins divisé qu'on le croit. Puis aussi, bien évidemment, ben ça va être intéressant d'observer qu'est-ce qui va arriver peut-être avec le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, qui avait davantage rallié les conservateurs beaucoup plus à droite là sur les enjeux socio-économiques. Là. Donc, ça pourrait être intéressant de voir M. Poilievre en chambre, qu'est-ce que ça pourrait donner. Puis aussi, ben l'avenir du PPC, là, comme qu'on l'appelle là, communément. Là.
Je ne sais pas, toi, pour ton côté, Phil, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ben c'est sûr que l'avenir est difficile à entrevoir là, parce que comme Jean Charest est vraiment comme un peu plus le représentant des progressistes conservateurs, mais on a peu avec le résultat, on peut penser que cette aile-là a un peu été délaissée pour laisser la place au parti plus de droite. Puis comme justement, est-ce qu'on va trop se coller au Parti populaire? ça reste à voir dans les prochaines semaines, mois et années. Là.
Moi, ce que je peux penser de ce résultat-là, c'est moi, je me vois prochaine élection fédérale, qu'est-ce qui va arriver? Puisque comme on le voit depuis les deux derniers mandats de M. Trudeau, on voit que, en fait, pour faire des chiffres très simples, même pour remporter une élection fédérale, il faut remporter le territoire québécois avec le plus de députés possible ou au moins minimiser les circonscriptions de l'autre parti, dans lequel on est contre en élection. Mais là, est-ce que Poilievre va être capable de rallier les Québécois, Québécoises? J'ai beaucoup de doutes et j'ai bien hâte de voir la suite, puisque honnêtement, si on suit la tendance des dernières années, les libéraux vont continuer sur leur lancée, puisque c'est grâce à une division du vote des conservateurs, ou en fait une de leurs piètres résultats dans des circonscriptions clés ou même des provinces clés comme dont l'Ontario et le Québec. Je suis très moins fan d'élections et de résultats d'élections. J'ai hâte de voir, honnêtement, c'est une situation que j'ai hâte de voir. Est-ce que le Bloc québécois va en profiter pour encore s'asseoir sur ses sièges au Québec? Je sais pas. C'est à suivre, puisque une élection fédérale n'est pas près d'arriver non plus, mais...
Non, puis c'est la spéculation aussi, là. Mais honnêtement, peut-être la tendance qui risque de se dessiner, c'est le Parti conservateur. Mais tu sais, même avec Erin O'Toole, là, si on compare Erin O'Toole, l'ancien chef, puis Pierre Poilievre, M. O'Toole était davantage plus vers le centre droit, là, donc que M. Poilievre, qui est vraiment à droite, puis M. Trudeau est quand même passé minoritaire. Donc, est-ce qu'avec M. Poilievre, qui va être davantage axé vers la droite, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va pouvoir, dans le fond, obtenir assez de sièges pour avoir une majorité, ou est-ce que, justement, il va juste faire sortir le vote dans les provinces qui votent déjà conservateurs, comme l'Alberta et la Saskatchewan? Est-ce qu'il va aller chercher, dans le fond, des circonscriptions plus en Ontario, ce genre de fort? Puis, évidemment, peut-être que ça va peut-être laisser présager le fait qu'on va avoir peut-être des gouvernements minoritaires encore pour un très long bout. Là. Puis ce qui se dessine peut-être à l'heure actuelle, c'est peut-être une division là, au niveau des Canadiens là, qui pourrait peut-être avoir lieu aux prochaines élections. Mais comme que je dis, c'est de la spéculation pure et simple. Là.
Rapidement, les gars, quand vous avez aimé votre émission, des entrevues, trois entrevues dans le même jour, dans la même émission, comment vous avez trouvé ça?
C'était un défi, on va le dire comme ça. C'est la première fois qu'on le faisait. La semaine prochaine, on en a quatre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais honnêtement, moi, je suis satisfait. Tu sais, chaque candidat, on avait déjà préétabli certaines choses. On savait que Mme Tang voulait parler de santé parce qu'elle est infirmière de formation, puis c'est quand même, elle a contribué à la plateforme santé du PQ. Je sais pas si toi, du côté de Monsieur Pagé, qu'est-ce que t'en as pensé, Félix?
C'était une entrevue intéressante aussi. Comme tu sais, on a fait un peu comme avec Mme Tanguay, puis on s'est centré dans ses spécialités. Lui qui est plus connaisseur en agriculture et comme économie de l'agriculture un peu. Et ça a été la même chose que Monsieur Bachand, toi, Nicolas. Qu'est-ce que.
En fait, même chose. Monsieur Hachin, c'est le candidat sortant de ma circonscription. On pouvait parler des enjeux plus spécifiques à la ville de Val-des-Sources, mais aussi, ça a été un ancien maire. Donc, évidemment, c'est quand même intéressant de voir son point de vue sur son point de vue, mais aussi les idées qu'il avait amenées de la part de la Coalition Avenir Québec pour un deuxième mandat. Donc, oui, moi, j'ai vraiment aimé ma journée. Si on peut y aller avec le mot de la fin. Merci, Charles Saltris, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Ça a été une émission, je pourrais dire... une émission chargée, évidemment, mais une chose est sûre, c'est on est toujours heureux de faire ce genre d'émission-là. Bien hâte de voir la semaine prochaine comment ça va aller. On se prépare ardemment pour essayer de non seulement à challenger, mais aussi offrir des questions intéressantes, des bonnes entrevues à ces candidats-là, parce que eux, ils en ont beaucoup d'entrevues, donc est-ce que il y en a beaucoup d'entrevues, tout simplement. Donc, on veut qu'ils soient bonnes ou quoi que ce soit. Là. Donc, je sais pas, M. Marcus, c'est un mot.
Oui, justement, pour la semaine prochaine, on a peut-être annoncé peut-être les candidats qu'on va avoir en entrevue, là, parce que c'est sûr qu'on a confirmé à notre agenda. On va avoir Mme Geneviève Hébert de la CAQ, qui est députée sortante dans Saint-François. Mme Mélissa Généreux, qui est candidate pour Québec solidaire dans Saint-François aussi. Ensuite, on va avoir une entrevue avec Mme Zoé Saint-Amand, candidate du Parti conservateur ici dans la circonscription de Sherbrooke. Puis après ça, on va conclure avec une entrevue qu'on va réaliser jeudi cette semaine avec M. François Weiss, là, qui est candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Sherbrooke.
Merci Marco. Et sur ce, on vous souhaite une excellente semaine tout le monde, une excellente journée. C'était les attachés de fraises sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.